exclusivité mondiale sur le web. KPR.tacticalfm.com. T'écoute. Kraken Paradise. Kraken Paradise Radio. Informe, dénonce et questionne. Puis ça start. Là.
Oh yeah! Bienvenue à bord, bienvenue à tous sur le 8e épisode du Kraken's Paradise qui revient une fois de plus hanter le bitrate du tacticalfm.com. J'espère que vos cerveaux sont prêts parce que cette semaine, bien évidemment, on a du gaming au menu, également de l'actualité technologique et aussi une entrevue avec Tess Demi qui va nous parler de la crise financière. Alors préparez-vous, on plonge!
C'est un show un peu chaotique. On parle de toutes sortes de choses. Et des fois, on y aime le tout avec du technoprotech. Directement de l'underground. Écoutez, KPR-FM.
Kraken Paradise Radio. Link activated. New player.
Yes! Salut tout le monde! Bienvenue sous l'océan, bienvenue dans mon sous-marin en ce 10 novembre 2008. Bienvenue à bord pour cette 8e épisode du KPR. Bienvenue à bord donc, et j'espère que vous êtes confortablement assis, j'espère que votre cerveau est réveillé. Je pense que ça a brassé pas mal là, depuis mon dernier podcast, de 4 heures d'ailleurs. J'espère que je vous ai pas trop magané. Merci d'ailleurs à Beautrax et Test Demi, là, pour cette excellente participation. Et aussi, merci les dudes du podcast pour la certification Cheesy Plus Plus. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, le KPR est maintenant officiellement certifié par le podcast With Cheese. Une autre émission écoutable via le tacticalfm.com. Sinon, en intro, ben moi, j'en profite pour remercier les gens qui ont pris le temps de me formuler des commentaires, notamment là, de m'envoyer des news technologiques que j'aurais pu manquer. Donc, merci pour l'effort, c'est très apprécié. Sinon, ben aussi, je m'en voudrais de pas mentionner les quelques plaintes que j'ai eues. Merci à ces gens-là qui ont formulé des plaintes, notamment me mentionnant que je podcastais pas assez. Certains qui même s'inquiétaient, là, coudonc, le Kraken est-il toujours en vie? Ben oui, là, je vous rassure tout de suite, là, le Kraken est de retour pour hanter sporadiquement le bitrate du tactical. Fidèle à mon habitude, donc, j'ai déployé mon filet et j'ai amassé le maximum d'informations technologiques, là, pour vous informer le plus exactement possible au niveau informatique, technologie et gaming, évidemment. Sinon, ben ça a brassé pas mal depuis mon dernier podcast, là, entre autres avec les élections canadiennes, les élections américaines, et puis là, on s'enligne pour des élections provinciales. Alors, j'espère que vous êtes pas trop saturés avec la politique présentement. Sinon, ben parlant politique, je pense qu'on est prêt pour le segment d'actualité. Mon intro est terminée, donc c'est parti!
Événementiel, questionnement et opinion.
Alors donc, bienvenue dans le segment actualité et quelques petits trucs là, qui ont attiré mon attention durant les dernières semaines. Je vais vous en faire part dès maintenant. Donc, première chose, on a Microsoft là, qui annonçait récemment à propos de son Windows 7, la prochaine version donc de son système d'exploitation qui est en développement présentement, qui annonçait donc la date de sortie qui serait finalement dès la fin 2009, début 2010. Donc, par rapport à ça, ben moi j'avais à commenter un petit peu la news, c'est-à-dire que bon, Microsoft côté marketing, Vista, on peut s'entendre, c'est comme on dirait un peu un flop parce que bon, ça se vend pas du tout. La plupart des fabricants de PC le downgrade pour des versions XP, la clientèle a de la misère à transitionner ou même les gens sont réfractaires à changer pour Vista. Donc avec la pression, donc ben Microsoft devance sa date de sortie pour Windows 7 et donc c'est ça. Sinon, ben, parallèle à ça, j'avais un autre truc que je voulais vous parler. Ben, il y a la montée en popularité des EEE PCs, les fameux PC à faible coût, les petits portables mini qu'on appelle netbook en anglais. D'ailleurs, ben, il y a le fabricant HP là, qui a sorti un deuxième modèle le mois dernier. Par rapport à ça, ben, je voulais un petit peu lancer un débat par rapport à ça, dans le sens que souvent, ces petits ordinateurs-là, pour amoindrir le coût, vont venir avec une distribution de Linux très intéressante pour les gens qui veulent découvrir Linux, parce que les machines viennent préinstallées et préconfigurées. Donc, il n'y a pas de cassage de tête. On peut déjà commencer avec un système qui est fonctionnel. C'est intéressant de ce côté-là. Puis, bien évidemment, ben, on sauve des coûts au niveau de la licence faramineuse de Windows. Donc, c'est ce qui explique le faible coût, entre autres, de ces machines-là. Et parallèle à ça, ben donc, ça nuit à Windows, on pourrait dire, dans un certain sens. Dans le sens que Windows perd un peu son monopole sur ces nouveaux portables-là. Et donc, le problème aussi qui est soulevé, c'est que les machines sont, parce qu'ils sont à faible coût, ben sont, on pourrait dire, peu performantes ou en tout cas avec performance réduite, vu que c'est des netbooks qui sont optimisés pour faire de l'internet, ben c'est des machines qui viennent avec un processeur allégé, moins performant, mais aussi moins coûteux, et c'est des machines donc qui n'ont pas la puissance là, pour rouler des systèmes comme Vista ou comme Windows 7 qui est en développement. Donc ça crée un nouveau marché, où un marché d'ordinateur, si on veut, qui la puissance n'est pas vraiment importante, pas autant que l'efficacité plutôt. Je voulais parler de ça un petit peu. Sinon, parlant d'open source, ben, on apprenait récemment que l'Allemagne annonçait donc la migration de plus de 11 000 de ses postes informatiques vers des systèmes Linux. Donc, je trouvais que c'était un fait intéressant. Il y a de plus en plus de gouvernements dans le monde là, qui transigent vers des solutions libres et open source. Donc, tranquillement, pas vite, là, on sent que l'empire Microsoft se fait shaker et perd des plumes un peu, là. Sinon, ben, toujours parlant d'informatique, on parlait aussi tantôt d'élections. Parler d'élections américaines, je trouvais ça intéressant, donc j'ai décidé de vous en parler. Imaginez-vous donc les astronautes, là, les deux qui sont présentement dans la ISS, la International Space Station, donc les astronautes Michael Fink et Greg Kamitov, ont donc pu voter à partir de l'espace, parce que la NASA leur a fait parvenir à chacun des deux un bulletin de vote crypté via courriel, qui a par ensuite été retourné de la même manière sur Terre. Donc ça assurait la confidentialité de leur vote. Puis, ben, ça prouve à tout le monde, finalement, que même si on est en orbite autour de la Terre, il n'y a pas de raison de ne pas aller voter, parce que la démocratie, ça existe quand on y participe. Donc, c'est ça. Sinon, peut-être un dernier truc qui a attiré mon attention. Je sais que c'est pas très récent comme news, là, mais ça m'a un petit peu scandalisé, donc je voulais vous l'exprimer. Et ben, il y a France D'Amour, là, qui est l'artiste québécoise, là, musicienne, là, qui est adepte là, de la scientologie. Loin de moi l'idée de vouloir remettre en question les croyances des gens, sauf que j'ai un petit problème avec ça, au niveau que quand ça se fait sur la place publique, à ce moment-là, ça me choque un peu, dans le sens que je trouve ça inconcevable, dans le fond, pour une personne qui a une visibilité comme France D'Amour, ou qui fait partie un peu du vedettariat, là, elle rejoint beaucoup de gens, et parce qu'elle est très médiatisée, donc, ben, qu'elle fasse la promotion de cette secte-là. On le rappelle aux auditeurs, là, la scientologie, c'est une secte et c'est illégal en Belgique. L'Europe en entier est en train de faire plusieurs enquêtes, notamment en France et en Angleterre. Donc, il y a plusieurs enquêtes qui sont ouvertes à propos de la scientologie. C'est en voie de devenir illégal en Europe. Sinon, ben, on dirait qu'ici, par contre, là, au Québec, au Canada, là, c'est un petit peu plus... Il y a un petit peu plus de laisser-aller, là. C'est-à-dire que je pense qu'ils peuvent faire pas mal plus ce qu'ils veulent, puis ils peuvent endoctriner pas mal plus de gens. Donc, moi, je voulais un petit peu, là, parce que c'est le mandat un peu tactical de dénoncer des trucs qui sont un peu inconcevables. Et ben, de mon point de vue, je pense que France D'Amour, là, qui fait la promotion de la scientologie, c'est inconcevable. Et par rapport à ça, voici l'extrait suivant.
Hello, leaders of Scientology. We are anonymous. Over the years, we have been watching you, your campaigns of misinformation, your suppression of dissent, your litigious nature. All of these things have caught our eye, with the leakage of your latest propaganda video into mainstream circulation. The extent of your malign influence over those who have come to trust you as leaders has been made clear to us. Anonymous has therefore decided that your organization should be destroyed. For the good of your followers, for the good of mankind, and for our own enjoyment, we shall proceed to expel you from the internet and systematically dismantle the Church of Scientology in its present form. We recognize you as serious opponents, and do not expect our campaign to be completed in a short time frame. We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us.
Donc voilà, c'est ce que j'avais à répondre à France d'Amour. Et sinon, ben pour ceux qui ont remarqué, l'extrait provient du vidéo YouTube du groupe Anonymous, un groupe de gens qui a décidé de se réunir, de se réunifier, de se rassembler afin de combattre un ennemi, celui de la Scientologie, par diverses tactiques, autant des manifestations, des pétitions, des plaintes, des actions légales, ainsi que des actions informatisées. On parle de piratage et de hacking, évidemment. On se rappelle les dernières attaques de Denial of Service sur le site web de la Scientologie, orchestré par le groupe Anonymous. Alors, à quand des actions d'Anonymous au Québec, je sais pas, mais si des gens d'Anonymous écoutent présentement, ben sachez que le Kraken supporte la cause. Sinon, ben c'est ce qui complète le segment actualité. On s'en va faire une pause et au retour de la pause, suivront les news techno. À tantôt.
Link engaged.
TacticalFM.com. Dénoncez le désinfo.
Billy Talent, Fallen Leaves.
When a crook had left your town, they were lost and never found. Fallen leaves, fallen leaves, fallen leaves on the ground. I hitched a ride until the coast to leave behind.
Planète Underground. www.mindgang.org.
Scientists have revealed a mysterious recording that they say could be the sound of a giant beast lurking in the depths of the ocean. While it bears the varying frequency hallmark of marine animals, it is far more powerful than the calls made by any creature known on Earth. It is too big for a whale, and one theory is that it is a deep sea monster, possibly a many-tentacled giant squid. The frequency of the sound meant that it had to be much louder than any recognized animal noise, including that produced by the largest whales. So, is it a huge octopus? Although dead giant squid have been washed up on beaches and telltale sucker marks have been seen on whales, there has never been a confirmed sighting of one of the elusive cephalopods in the wild. For years, sailors have told tales of monsters of the deep, including the huge many-tentacled kraken, that could reach as high as a ship's mainmast and sink the biggest ships. Scientists have been baffled by the sound. Nevertheless, they agree that the sound is most likely to be biological in origin. The listening stations lie hundreds of yards below the ocean surface, at a depth where sound waves become trapped in a layer of water known as the Deep Sound Channel. Most of the sounds detected obviously emanate from whales, ships, or earthquakes, but some very low-frequency noises have proved baffling. But some sounds remain a mystery. Monsters of the deep are they? Yes! You have now discovered the Kraken's paradise. Be part of the legend. Catch it on tacticalfm.com.
Kraken's paradise.
Manu Militari, l'empreinte.
Suite 21, Ontario Est. Les clients rentrent, sont sérieux, ils veulent le best. J'ai un feeling hardcore comme la Montana. Même matin, je pense que je vais shiner à la Tony. Ok, t'es prête, vas-y, avant qu'on meure d'ennui. Par le short, on s'évade d'ennui. Volume dans le tapis, let's go, ouvre les fenêtres. Puis gros étoile, gros, j'ai hâte de naître. Je t'en ai tête de rien, je t'en ai trois. Je veux être de quoi, je veux être libre chez nous. Moi, je suis un vrai Québécois, je rêve d'être le message. Le plus fat, le plus gros, le plus large, le plus bad, le plus beau. On arrive au spot, spoté à veille. Arrête ton bien, il faudrait pas réveiller à veille. Qui dort, ses billets de 20$. Elle va comprendre même matin qu'on est venu faire de l'or. Fake, à mesurer, échelle, gant, cacane. Il manquerait en même 3,5 de boucan. Ça se fait bien, même vite, on skate bientôt. J'ai peur de mourir avant de partir, prends-moi en photo. L'empreinte, j'suis la peur bleue des cols bleus. La couleur d'une jeunesse qui aime pas les feux. J'emprunte les trains pour voir du pays. Et je reviens quand on pense qu'on me détruit. L'empreinte, la peur bleue des cols bleus. La douleur d'une jeunesse qui aime pas les feux. J'emprunte les trains pour voir du pays. Je reviens quand on pense qu'on m'a détruit. Quand le jour se lève, jusqu'il reste de la nuit. Le résidu de la rue, comme les cops ou les ennemis. Je représente comme Manu, je crée des tensions. Normal, la lumière dévoile la nuit mes intentions. J'y pense quand qu'une belle chick se passe. Ça me sourit le cochon l'autre bord, se demande ce qui se passe. C'est quoi une nature morte de plus de décennies? Ici, oublie, je suis vivant depuis des décennies. Puis on veut m'effacer de la carte. Que je crève, que je batte. S'ils pouvaient me frapper à coups de patte. Ben allez-y, vous allez frapper un mur. Votre rage, votre haine, votre face, c'est mon armure. Avant qu'on me sente place, mon créateur s'arrange. Pour que mes couleurs dérangent comme le film Clockwork Orange. Ils veulent nous tenir par le cou, à l'aise. Mais on n'est pas des chiens, même si partout on laisse l'empreinte. J'suis la peur bleue des cols bleus. La couleur d'une jeunesse qui aime pas les feux. J'emprunte les trains pour voir du pays. Et je reviens quand on pense qu'on m'a détruit. L'empreinte, la peur bleue des cols bleus. La douleur d'une jeunesse qui aime pas les feux. J'emprunte les trains pour voir du pays. Je reviens quand on pense qu'on m'a détruit. Qui parle de mur légal ou illégal? Moi je veux frapper, taper, ouais ça fait mal. Ta liberté s'arrête où la mienne commence, docteur. Donne-moi un mur pour ordonnance. Puis pour ceux qui s'en sacent la température, avant d'aller faire une pub ou juste une signature. Ceux qui ont fait faillite à cause d'une amende, qui sont tombés d'un toit ou bien qui ont perdu une jambe. Faut pas lâcher, faut tout bomber, jusqu'à ce soit le bordel comme à Bombay. Qui nous disent quand qu'ils disent que notre or est vulgaire. C'est clair, faut leur répondre par la guerre. La rue, au champ de bataille, la rage. Pour général, soldat, sans médaille. L'empreinte pour balle. Inquiète-toi pas, aucune victime est innocente. Leur mur triste mérite qu'on baisse à détente. L'empreinte, j'suis la peur bleue des cols bleus. La couleur d'une jeunesse qui aime pas les feux. J'emprunte les trains pour voir du pays. Et je reviens quand qu'on pense qu'on m'a détruit. L'empreinte,
La peur bleue des cols bleus. La douleur d'une jeunesse qui aime pas les bleus. J'emprunte les trains pour voir du pays. Je reviens quand on pense qu'on m'a détruit. L'emprunt.
Link disengaged.
Directement du front line.
Les news techno. Techno illogique.
Technological.
Oh yeah, voici les nouvelles techno. Alors, commence. Un objet spatial non identifié. En début de septembre dernier, on pouvait lire dans un article publié dans le Astrophysical Journal que suite à l'observation par le télescope Hubble de ce qui serait un objet spatial non identifié, les scientifiques de la NASA et du monde entier sont perplexes. Selon les images captées par le télescope, l'objet spatial serait localisé à une distance d'environ 130 années-lumière. Ce qui est particulier dans cette observation, c'est surtout que l'objet en question serait apparu, puis disparu, de façon très soudaine, le tout sur une centaine de jours. Différent des observations habituelles, la forme ainsi que la lumière de l'objet aurait également la particularité d'être inconsistante et de ne correspondre à aucun spectre lumineux de corps céleste reconnu. Toutefois, une seconde hypothèse soulèverait l'idée que Hubble aurait pu tout simplement être berné par une poussière spatiale qui aurait faussé les données de sa lentille. Par contre, si l'observation s'avère réelle, cette dernière pourrait stimuler les recherches spatiales, ouvrant la porte à de nouvelles découvertes éventuelles. Affaire à suivre. La vente de Napster. Le distributeur américain de produits d'électronique grand public Best Buy a annoncé récemment le rachat du site pionnier de la musique en ligne Napster pour le montant faramineux de 121 millions de dollars. La vente, qui devrait être finalisée d'ici la fin de l'année, a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Napster. La transition permet à Best Buy de mettre la main sur la liste des quelques 700 000 abonnés à Napster. Cette transaction offre à Best Buy une plateforme reconnue pour renforcer nos possibilités dans l'espace numérique et pour construire de nouvelles relations régulières avec des clients, a souligné dans un communiqué son directeur opérationnel, Brian Dunn. Avec le temps, nous espérons renforcer nos offres aux consommateurs qui, selon nous, ont de plus en plus recherché les appareils et les solutions leur permettant d'accéder au contenu partout où ils veulent, quand ils le veulent, comme ils le veulent, a ajouté M. Dunn. Best Buy, avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 40 milliards de dollars, est une des valeurs les plus stables de Wall Street. Napster, qui compte quelques 140 employés basés à Los Angeles, devrait garder sa direction actuelle. Le pionnier de l'échange de musique en ligne a réalisé un chiffre d'affaires de 127,5 millions de dollars US sur son exercice 2008, en hausse de 15% sur l'année précédente. Acer veut détrôner le géant Dell. Un an après être devenu le troisième fabricant informatique mondial, le groupe taïwanais Acer se lance un nouveau défi, dominer le marché des PC portables d'ici 2011, ce qui le placerait en position de détrôner Dell, numéro 2 du secteur des PC. Pour se différencier, le groupe veut aussi mettre l'accent sur l'Internet mobile à travers les mini-PC à bas prix, aussi appelés Netbook. Il a lancé son modèle, le Spire One, en juin, avec pour objectif d'en vendre 6 millions d'ici la fin 2008. Dans la même optique, la compagnie qui vient de racheter Etron, un fabricant taïwanais de téléphones intelligents, a l'intention de s'attaquer l'an prochain au marché en plein essor des téléphones multimédia, voulant ni plus ni moins rivaliser l'iPhone d'Apple ainsi que le BlackBerry. Le nombre d'abonnés haute vitesse en constante augmentation. Le monde devrait compter 128 millions d'abonnés à Internet haute vitesse d'ici 2013, selon une étude de l'iDate, l'Institut de l'audiovisuel et des télécommunications européennes. En termes de répartition géographique, l'Asie restera le principal marché, représentant 66% des abonnés à la fibre optique dans le monde en 2013, notamment grâce au Japon et à la Corée du Sud. De l'essence à base de sucre. Selon Science News, en utilisant des particules métalliques microscopiques, les scientifiques de l'Université Madison au Wisconsin auraient découvert que le sucre végétal pourrait être converti en carburant, celui-ci pouvant être utilisé dans les moteurs conventionnels. La substance générée par cette conversion serait d'ailleurs plus stable que l'éthanol, également plus propre en émissions polluantes que les carburants provenant du pétrole. Des liens peer-to-peer légaux en Espagne. Selon Torrent Freak, la cour provinciale de Madrid aurait récemment statué que les liens pointant vers des fichiers en provenance de réseaux P2P seraient légaux. Dans une poursuite contre les 15 administrateurs du site Charmula.com offrant des liens vers des fichiers cinématographiques, musicaux, ainsi que logiciels via le réseau de partage eDonkey, la cour aurait rendu son verdict final et ce sans appel. Charmula ne viole aucune loi et opère en toute légalité.
Des e-books gratuits disponibles à nouveau. Le site Mobile Read annonçait il y a quelques semaines que Tor relançait son programme de e-books gratuits. Déjà, deux e-books seraient disponibles et un e-book gratuit additionnel devrait s'ajouter, ainsi de suite, chaque mois. Les e-books disponibles en langue anglaise sont accessibles une fois enregistrés au forum du site tor.com. Media Defender vend secrètement du porno. L'entreprise Media Defender, connue mondialement pour ses opérations anti-piratage, s'attaquant principalement au réseau de file sharing, s'avère être également un important revendeur de matériel porno. En effet, selon Torrent Freak, on peut apprendre par l'entremise des courriels internes de la compagnie qui ont leaké sur Internet que l'entreprise puise sa principale source de revenus en provenance de sites 3X ainsi que de sites de dating tels que Adult Friend Finder. YouTube censuré. On apprenait récemment sur TG Daily que le populaire site web de partage vidéo YouTube.com a été banni au Koweït. En effet, après que des vidéos parues sur YouTube critiquant l'islam ainsi que son prophète aient été jugées offensantes pour les musulmans, le ministère des Communications du Koweït aurait donc forcé la main des fournisseurs d'accès Internet du pays afin de faire bloquer YouTube. Et toujours à propos de YouTube, on annonce une nouvelle limite de la taille des fichiers. On apprenait récemment sur Lifehacker que la limite de taille maximale des vidéos, précédemment de 100 MB, passe maintenant à 1 GB sur YouTube. Par contre, la limite temporelle de 10 minutes demeure toujours effective. L'augmentation de la limite de taille permettra donc l'augmentation de la qualité des vidéos à venir. Nouveau record pour Toshiba. Il y a quelques semaines, Engadget annonçait que la compagnie japonaise Toshiba lançait un nouveau disque dur SATA de 250 gigs destiné au marché des portables. Mesurant 8 mm d'épaisseur et 4,6 cm de hauteur, soit à peine plus qu'une batterie 2A, ce nouveau disque dur fracasse donc le précédent record qu'avait établi Toshiba. Ce nouveau modèle, entré en production d'ici la fin novembre, coûtera moins cher que les disques SSD. Il pourrait donc rapidement devenir la norme sur les netbooks et autres PC portables à faible coût. Une poursuite du RIAA invalidée. Selon TG Daily, le procès contre la mère de famille Jamie Thomas de Chicago, qui avait été traîné en cours par la RIAA, la Recording Industry Association of America, est poursuivi pour la somme de 222 000 $ US après avoir partagé 24 chansons en ligne via le réseau Peer-to-Peer Casa, a été annulée suite à une erreur de jury. Le juge ayant déclaré la poursuite excessive aurait même demandé l'amendement de la loi du Copyright Act auprès du Congrès américain. Un second procès contre l'accusé sera intenté à une date ultérieure après que le montant de la pénalité soit révisé à la baisse. Pirate Bay gagne en cours. Selon Torrent Freak, le moteur de recherche de fichiers Torrent PirateBay.org a gagné en cours suite à l'appel de la décision du tribunal de Bergamo de bloquer l'accès au site auprès des fournisseurs d'accès Internet italiens. Le site web ne faisant qu'héberger des liens et non des fichiers directement a donc été jugé légal et son accès aurait été restitué. Prolongement de licence pour Windows XP. Les ventes de Windows Vista n'étant pas aussi élevées que prévu et comme beaucoup de consommateurs préfèrent encore downgrader vers XP, le mois dernier Microsoft annonçait donc, suite à la pression des utilisateurs ainsi que des fabricants, la prolongation de ses licences pour Windows XP. Initialement prévue pour le 30 juin 2008, la fin du support de XP est donc prolongée jusqu'au 31 janvier 2009. Réduction de la vie privée des internautes. D'abord, en Angleterre, selon le journal britannique The Citizen, on apprenait le mois dernier que le gouvernement anglais lançait le Interception and Modernization Program, permettant l'accès au MI5 ainsi qu'au MI6, ainsi qu'à la police d'avoir un accès total à tous les courriels et tous les messages textes transigeants à l'intérieur du pays. Ensuite, en Corée, The Guardian nous apprenait que les dirigeants du pays le plus branché sur Terre ont récemment annoncé des projets de loi visant à réduire l'anonymat des internautes. En effet, les adeptes de forums et de chats devront maintenant fournir des informations personnelles vérifiables afin de s'enregistrer. Et les compagnies œuvrant sur Internet devront rendre leur algorithme de recherche public afin d'améliorer leur transparence. Plus de 200 000 $ volés dans les aéroports. Gizmodo nous apprenait le mois dernier qu'un employé chargé de l'administration de la sécurité des bagages pour la compagnie Newark aurait, au cours des 5 dernières années, volé plus de 200 000 $ US de matériel électronique tel que des caméras vidéo et photos, des ordinateurs portables, ainsi que des consoles de jeux Xbox 360 et PlayStation 3. Cette dernière nouvelle devrait donc remettre en question la façon dont se fait la sécurité dans les aéroports.
Le scotch tape dangereux? On apprenait récemment sur NVJet que des scientifiques de l'Université de Los Angeles en Californie ont effectué des tests sur du scotch tape. Après avoir déroulé le fameux ruban écossais à une vitesse de 3 cm seconde dans une chambre sous vide, les scientifiques ont en effet constaté que le scotch tape émanait des rayons X. Poussant plus loin l'expérience, les scientifiques ont également constaté que des rayons X étaient présents sur le pouce des utilisateurs de scotch tape peu après avoir déroulé le fameux ruban. D'autres recherches vont suivre puisque cette découverte pourrait permettre l'avancement des technologies médicales en développant une manière alternative aux technologies à rayons X utilisant présentement le nucléaire. eBay bannit l'ivoire. Le magasin en ligne de vente aux enchères eBay interdira la vente des produits de l'ivoire sur son site web à compter de décembre prochain dans le but de protéger les éléphants d'Afrique et d'Asie. Nous ne pouvons nous assurer que l'ivoire en vente sur eBay répond au règlement complexe qui en gouverne la vente, a expliqué Richard Brewer Hay, le blogueur officiel de la compagnie sur son site eBay Inc. eBay permettra toutefois la vente d'antiquités qui contiennent des petites quantités d'ivoire, comme une table avec des incrustations ou encore un piano avec des touches d'ivoire. Les objets doivent toutefois avoir été produits avant 1900. Les objets contenant beaucoup d'ivoire, comme un jeu d'échecs, des broches d'ivoire ou des bijoux par exemple, ne seront toutefois pas tolérés, peu importe l'année de fabrication. Des enregistreurs de frappe nouveau genre. Des étudiants suisses en sécurité informatique viennent en effet de concevoir pour leur doctorat un nouveau type d'enregistreur de frappe qui révèle une importante faille au niveau de la sécurité des claviers d'ordinateur. Ces deux chercheurs, qui complètent leur doctorat à l'École polytechnique de Lausanne, ont utilisé une simple antenne radio pour capter des signaux électromagnétiques produits lorsqu'un utilisateur appuie sur les touches de son clavier, convertissant ensuite ces signaux en caractères correspondants. Afin de vérifier la sécurité des claviers d'ordinateur, les deux jeunes chercheurs ont développé quatre systèmes différents pour convertir les signaux électromagnétiques en caractères. Les chercheurs ont testé leur technique sur 11 claviers connectés par port USB et PS2, mais aussi sur des claviers d'ordinateur portables. Tous les claviers testés étaient vulnérables à au moins un type d'attaque, ont constaté les deux étudiants. Ils ont même été en mesure de capter des signaux électromagnétiques d'un clavier à 20 mètres de distance. Pour y parvenir, nous avons utilisé des appareils loin d'être sophistiqués, ce qui ne coûterait presque rien à produire, ont-ils souligné. Les deux chercheurs concluent donc que la transmission d'informations par clavier n'est pas sécuritaire. Ils entendent publier prochainement les résultats de leurs recherches dans une revue scientifique. Affaire à suivre. Sentence pour vol virtuel. Deux adolescents néerlandais ont été reconnus coupables de vol d'objets virtuels dans un jeu multijoueur en ligne. Les deux jeunes, âgés de 14 et 15 ans, ont été condamnés à des travaux communautaires par une cour du district de Leeuwarden, aux Pays-Bas. Les deux adolescents ont été reconnus coupables de vol après avoir contraint un garçon de 13 ans à transférer une amulette et un masque virtuel sur leur compte RuneScape, un jeu d'aventure multijoueur en ligne. Ces biens virtuels sont considérés comme des biens réels en vertu de la loi néerlandaise. Il s'agit donc d'un vol, a déclaré la cour. L'adolescent de 15 ans a été condamné à 200 heures de service communautaire, alors que son jeune complice de 14 ans est condamné à effectuer 160 heures de travaux communautaires. Alors donc, on s'arrête quelques instants, le temps d'une pause, et on revient ensuite avec la deuxième partie, le deuxième bloc des News Techno.
Link engaged.
Mystique Production présente...
Samedi le 15 novembre, dès 20h.
En direct de l'Observatoire de la Capitale.
Au 31e étage du Complexe G.
On spin de l'électro toute la nuit.
C'est le Solaris Légende d'automne.
Avec Madis Kimo, Syntronic, Kimo et David Gill.
Admission $15.
Billets en vente chez EXO, Zone Urbaine et Platine. Info 24h, 621-6000, worldschool.ca.
Kraken Cannabis Radio.
Carport North, human.
You're so right and you don't think you're wrong. You're not on the list and you're not in my songs. I did right to walk and just leave you there. Cause no one can stand your fear, fear.
Oh,
Yes, it's human. Yes, it's human. Human. Yes, it's human. Yeah.
Détente paradisiaque est une présentation du Kraken's Paradise, le paradis du technoïde.
Mystique Productions présente en collaboration avec Frontenac Musique
le vendredi 21 novembre dès 22h à la taverne urbaine Chimo de Québec
avec Cyr, Ultra, Cloudel et Kimosdenir MXS.
C'est la soirée électro pas propre.
Entrée 5$ et un cadeau est offert si t'apportes ton savon.
Kraken's Paradise.
Techlope Creeper.
Disengaged.
Kraken's Paradise Video vous rappelle que son émission ne contient aucune anarchie.
Oh.
Oh yeah! Bienvenue dans la deuxième partie des news techno, maintenant sans arachide. Alors on poursuit. Apple préparait un netbook. Selon New York Times, Apple préparait un nouvel appareil dont la taille de l'écran se situerait entre celle de l'iPhone et du MacBook, ce qui relance les spéculations à propos d'un éventuel ordinateur portable à prix modique de type netbook. Un employé du moteur de recherche Google aurait donc aperçu l'appareil non identifié d'Apple dans les statistiques de visite. Ce ne serait pas la première fois qu'un nouveau produit d'Apple soit découvert de cette façon, puisque l'iPhone avait également été vu pour la première fois dans des statistiques de visite. Récemment, pendant une téléconférence, Steve Jobs a affirmé qu'il observait le marché des netbooks et que si ce dernier continuait d'évoluer, Apple avait des idées très intéressantes sur le sujet. Est-ce que l'appareil inconnu récemment observé est l'une de ces idées intéressantes? Peut-être. Selon le blog Gizmodo, il se pourrait toutefois que l'appareil en question ne soit qu'un iPhone de nouvelle génération muni d'un écran haute définition de 800 par 480 pixels. Google Earth sur l'iPhone. Google vient de lancer une version mobile de son populaire logiciel Google Earth destiné à l'iPhone d'Apple. Cette nouvelle version du logiciel de visualisation tridimensionnelle de la Terre maximise l'utilisation de l'écran tactile de l'iPhone. Les utilisateurs peuvent par exemple effectuer un zoom avant en appuyant deux doigts sur l'écran et en les éloignant l'un de l'autre. En pivotant les deux doigts, il est également possible de changer la perspective tridimensionnelle. Comme les autres logiciels internes de l'iPhone, Google Earth ajuste son interface graphique en fonction de la position horizontale ou verticale de l'appareil. Le logiciel est disponible gratuitement sur le Apple Store et peut être téléchargé dans 20 pays en 18 langues. Pour le moment, la version du logiciel pour l'iPhone ne comporte aucune publicité, mais Google envisage d'en inclure de façon limitée. Google n'exclut pas la possibilité de présenter prochainement une version de Google Earth pour les nouveaux MacBooks d'Apple, qui disposent d'un pavé tactile multitouche similaire à l'écran tactile du iPhone. Google pourrait aussi lancer une version Google Earth pour son propre système d'exploitation pour les téléphones cellulaires, c'est-à-dire Google Android. Les torrents décentralisés arrivent. L'application de torrent Tribler, un projet élaboré par plusieurs universités européennes en partenariat avec la Harvard University, se voit la première à implanter un système de recherche décentralisé. Avec Tribler, donc, les utilisateurs pourront maintenant trouver leur lien torrent, en même le logiciel, parmi ceux partagés par les autres utilisateurs, évitant ainsi le besoin de passer par un site centralisé tel que le Pirate Bay, Mininova ou autres moteurs de recherche. Déjà, des applications torrent proposent des transferts encodés de taille variable pour les paquets de données ainsi que des ports aléatoires. Avec l'arrivée d'un système de recherche décentralisé, le torrenting n'est donc pas près de s'éteindre de sitôt. Rendez-vous donc au tribler.org pour vous procurer l'application disponible en saveur Windows, Mac et Linux. MTV concurrence YouTube. Lancé le 28 octobre dernier et accessible via le mtvmusic.com, le nouveau site web de la chaîne de télé musicale MTV donne maintenant accès gratuitement aux internautes à la presque totalité de son archive de vidéoclips, soit plus de 16 000 vidéos. Des performances live aux clips, en passant par les entrevues et les extraits de spectacles Unplugged, MTV se positionne pour tenter de devenir la référence en vidéoclips online, concurrençant donc directement le géant YouTube. Rappel de 300 000 batteries. Suivant son précédent rappel en 2007, Sony annonçait le 31 octobre dernier un second rappel pour les batteries équipant ses notebooks. Les batteries lithium-ion équipant ses portables vendues entre novembre 2004 et juin 2006 surchauffent et présentent des risques de dommages pour la machine ainsi que des risques de brûlure pour les utilisateurs. Les problèmes de surchauffe affectent également les portables de la gamme Presario V-Series de Compaq, les pavillons DV de HP ainsi que certains modèles satellites de Toshiba. Si vous disposez d'une de ces machines, vous êtes donc invité à contacter votre fabricant dans les délais les plus brefs afin de procéder à l'échange de votre batterie. Ubuntu 8.10 est releasé. La toute dernière version du système d'exploitation Linux Ubuntu, baptisée Intrepid Ibex, est maintenant disponible en téléchargement depuis le 30 octobre dernier. Plusieurs nouveautés sont au rendez-vous, comme entre autres un nouvel installeur, des performances réseau accrues, un nouveau kernel, la version 2.6.27, disposant entre autres d'un meilleur support pour les webcams, GNOME 2.4, ainsi que le tout dernier Xorg 7.4. La possibilité d'installer le OS ainsi que toutes vos applications et paramètres sur une clé USB en quelques clics pour pouvoir l'utiliser sur une autre machine est également possible. Rendez-vous donc au ubuntu.com pour télécharger de manière gratuite la toute dernière version de ce système d'exploitation qui gagne de plus en plus en popularité. Le WPA craqué.
Plus sécuritaire que le protocole Wireless Equivalent Privacy, le WEP, puisqu'il intègre le TKIP, le Temporal Key Integrity Protocol. On pouvait lire la semaine dernière, donc, sur Gizmodo, que le protocole d'encryption des réseaux sans fil, le Wireless Protected Access, mieux connu sous son acronyme WPA, vient tout juste d'être craqué. En moins de 15 minutes, deux chercheurs ont en effet réussi à s'attaquer au TKIP et à s'infiltrer dans un réseau WPA. Seul le protocole WPA 2 semble donc sécuritaire pour le moment. Donc, si vous possédez un routeur sans fil, ben maintenant vous savez quoi faire, changez votre encryption. XM lance un lecteur MP3. La radio satellite XM a dévoilé le 4 novembre dernier le XMP3, une radio satellite portable et un lecteur MP3 tout en un qui permet d'enregistrer plusieurs fréquences satellites simultanément. Le baladeur portable manufacturé par Pioneer permet d'emmagasiner une centaine d'heures de programmation XM, incluant 30 heures de programmation enregistrée automatiquement à partir des 5 stations préférées de l'usager et 10 heures de chansons individuelles enregistrées sur différentes stations. Lors de l'écoute en direct, le XMP3 enregistre automatiquement les dernières 30 minutes de programmation de XM, un peu comme un enregistreur vidéo personnel, ce qui permet aux auditeurs de facilement réécouter le contenu si désiré ou de le mettre sur pause. Le logiciel XM2Go fourni avec le lecteur permet pour sa part aux auditeurs de combiner le contenu en direct et leur collection personnelle de MP3, une première dans l'industrie selon ce qu'a affirmé dans un communiqué Janet Gillespie, vice-présidente marketing chez XM Canada. Pour lire des MP3, les usagers devront toutefois acheter une carte SD vendue séparément. Le lecteur XMP3 est disponible pour la somme de 279$ canadiens. Yahoo Live s'éteint. À peine un an après le lancement du service de diffusion vidéo en direct, Yahoo Live annonce qu'il cessera bientôt ses activités. Les développeurs de Brickhouse, le groupe derrière la création de Yahoo Live, ont annoncé le 4 novembre dernier sur le blog du service de diffusion vidéo en direct la fin des activités de Yahoo Live pour le 3 décembre prochain. Le service, qui permet aux utilisateurs munis d'une webcam de diffuser en direct sur leur blog, devenait en février dernier le premier service du genre lancé par une société d'envergure. Suivant le pas d'entreprises émergentes comme Stickcam, Justin.tv, Ustream et BlogTV. La plateforme, qui permet la mise en correspondance d'un maximum de 5 utilisateurs à la fois pouvant échanger par webcam, clavardage texte ou audio, semble avoir été appréciée par ses utilisateurs qui réagissent à l'annonce de la fermeture sur le blog du service. Une pétition lancée par l'un d'entre eux a d'ailleurs été mise en ligne afin d'empêcher la fermeture du service. Bien que l'équipe de Brickhouse évoque le besoin d'explorer de nouveaux territoires et de développer de nouveaux produits, certains blogs évoquent les défis et les coûts qui représentent un service comme Yahoo Live, notamment ceux reliés à la bande passante. Un nouvel add-on pour Firefox. La nouvelle application Juice est maintenant disponible en version bêta pour Firefox. Juice pourrait bien être un autre gadget pour Firefox, mais son utilisation intuitive et le fait qu'il permette d'aller chercher une information secondaire sans quitter le furteur ou ouvrir un nouvel onglet énergise à sa façon Firefox. L'application Juice prend place dans une fenêtre verticale à droite de l'écran. L'écran principal à gauche est quant à lui toujours occupé par le furteur. Juice entre en jeu lorsque l'internaute souhaite obtenir une information complémentaire sur un élément de texte en cours de lecture. Si par exemple il s'agit d'un nom d'une personnalité citée dans le texte, l'utilisateur n'a qu'à souligner ce nom et glisser le texte dans le champ de requête de Juice vers la droite. L'application lance alors une recherche et offre notamment des articles de Wikipédia, des vidéos reliées ainsi que des photos. Les utilisateurs de YouTube peuvent également se servir de l'application pour déplacer les vidéos lues de Firefox vers Juice pour consultation ultérieure. L'application permet de garder en signet non seulement des vidéos récoltées en furetant, mais aussi des photos qui peuvent être organisées par catégorie. Juice est une application gratuite développée par l'entreprise de Beijing Linkool Labs. Plus pratique, évidemment, sur les écrans 16.9. La fin est pour Windows 3.0. 18 ans après le lancement de la troisième version de Windows, Microsoft a arrêté samedi dernier d'émettre des licences d'exploitation pour son premier système disposant d'une interface graphique à connaître le succès. Bien que le système d'exploitation n'était plus utilisé dans les ordinateurs depuis une quinzaine d'années, Windows 3 a eu une deuxième vie récemment dans certains appareils électroniques comme les caisses enregistreuses. Il était encore utilisé aussi dans les avions des compagnies aériennes Virgin et Qantas afin de contrôler les systèmes de divertissement des passagers. Le soutien technique pour l'ancien système d'exploitation lancé en mai 90 avait été abandonné récemment en 2001.
Afin de fonctionner normalement, Windows 3 nécessitait à l'époque un processeur de 10 MHz, au moins 640K de mémoire vive et un espace de 7 MB sur le disque dur. Windows Vista, quant à lui, nécessite un minimum d'un processeur d'1 GHz, 512 MB de mémoire vive, ainsi que 20 GB sur le disque dur. Des longs métrages sur YouTube. Le site web de partage de vidéos YouTube devrait commencer à offrir des longs métrages d'au moins un des grands studios hollywoodiens d'ici 1 à 3 mois, selon ce qu'a dévoilé le réseau CNET le 6 novembre dernier. Google, qui à peine a rentabilisé l'achat de YouTube au coût de 1,6 milliard de dollars US en 2006, tenterait depuis plusieurs mois de s'entendre avec des studios de cinéma pour diffuser des films hollywoodiens sur son site. Le moteur de recherche serait récemment entendu avec un des studios, mais la forme que prendraient les annonces publicitaires, car des publicités pour être joué avant, pendant et ou après les vidéos, n'a toujours pas été défini. YouTube n'est pas le premier site web à offrir des films hollywoodiens online. Aux États-Unis, il est notamment possible d'en visionner sur le populaire site Hulu.com, lancé l'an dernier en collaboration avec NBC Universal et News Corp. En septembre dernier, la base de données cinématographiques IMDb, la Internet Movie Database, une propriété du détaillant en ligne Amazon, avait également annoncé son intention de permettre à ses usagers de visionner des films hollywoodiens et des séries télévisées en ligne gratuitement. Un ex-employé d'Intel vole 1 milliard de dollars. Sur Tom's Hardware, on apprenait le 7 novembre dernier que tout juste avant de quitter son emploi, Biswamohan Pani, désormais ex-employé d'Intel, a souhaité profiter des quelques jours de congés payés qui lui restaient. Le hic, pendant ce temps, il a commencé à travailler pour AMD et en a profité pour voler des documents à Intel. Pani a indiqué ne jamais avoir eu l'intention de revendre les documents, dont la valeur est estimée à 1 milliard de dollars. Il souhaitait plutôt les utiliser pour faire avancer sa carrière. Il fait désormais face à 5 chefs d'accusation, un de vol de secret industriel et 4 d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur. Pour le premier, il risque 10 ans de prison et plus de 20 ans pour chacun des autres. AMD coopère présentement avec le FBI après avoir été blanchi de toute accusation puisqu'elle n'était pas au courant des activités criminelles de leur nouvel employé. Delicious a 5 ans. Le 6 novembre dernier, le populaire site de social bookmarking Delicious fêtait sa 5e année d'existence. Le site web permet à la fois d'accéder à ses bookmarks de n'importe quel ordinateur, en plus de les partager avec d'autres internautes, de les taguer, classer et commenter. Avec ses 5,3 millions d'utilisateurs, plus de 180 millions d'adresses auraient été partagées grâce à ce site. Google intègre les SMS. Le populaire service Gmail du géant de la recherche Google permet maintenant l'envoi de messages textes sur cellulaire, les fameux SMS ou Short Message System. Si vous tapez un numéro de téléphone dans la fenêtre de chat intégrée à Gmail, une option va apparaître qui vous permettra d'envoyer un SMS à ce numéro. Même chose si vous tapez le nom d'un contact et qu'il a déjà un numéro de mobile dans son profil. Pour l'instant, cette fonction n'est disponible qu'aux États-Unis, mais devrait s'étendre au reste du monde d'ici les prochains mois, a annoncé Keith Coleman, Product Manager pour Gmail, lors d'une entrevue au début du mois. La Chine censure les torrents. Torrent Freak rapportait le 8 novembre dernier que la Chine viendrait à nouveau d'augmenter son emprise et sa censure sur le web. Malgré que ce n'est pas nouveau en Chine d'avoir de nombreux sites web bloqués, jusqu'à maintenant, les sites de recherche de torrent étaient épargnés. Ce n'est donc plus le cas maintenant puisque les sites Mininova, Pirate Bay et IsoHunt ne répondent plus aux internautes chinois. Les sites sont donc inaccessibles et redirigent plutôt les usagers vers le site de recherche chinois Baidu. Toshiba annonce des portables à 3 GPU. Le fabricant de portables japonais Toshiba faisait récemment l'annonce de ses tout derniers modèles de PC portables, les séries Cosimo X305Q706 et X305Q708 sont en effet munis, en plus du processeur graphique GeForce 9400M de base, de deux GPU 9800M GTS en SLI. Le processeur 9400M, équipé de 16 stream processeurs cadencés à 1.4 GHz, est destiné à un usage courant de l'appareil, afficher le desktop ainsi que pour des fonctions multimédia. Ce qui est intéressant donc, c'est l'ajout de deux processeurs additionnels, possédant quant à eux 64 stream processeurs. C'est donc une machine de gaming plus que décente qu'on a droit cette fois-ci. Et comme le confirme le vice-président de Toshiba, la demande pour des portables ultra-performants destinés aux gamers est à la hausse. Le modèle de base, fourni avec un processeur Core 2 Duo de 2.2 GHz ainsi que 4 GB de RAM, se vend 1999 $ US.
cliquer sans souris. La compagnie M-Joystick Technologies faisait récemment l'annonce d'un nouveau type de contrôleur pour les PC et les consoles. Rivalisant directement avec la traditionnelle souris ainsi qu'avec les manettes, le nouveau système basé sur la motion capture permettrait, à l'aide d'une caméra, la manipulation de fenêtres ou d'objets sans avoir à utiliser de dispositif. La démo vidéo de la technologie diffusée largement sur des sites de partage vidéo ne va pas s'en rappeler le film Minority Report. Souffrant toutefois de problèmes de lag, cette technologie, une fois au point, pourrait véritablement rendre nos souris ou contrôleurs de jeu totalement obsolètes. Des rumeurs annonceraient aussi que, en plus de travailler sur un prototype PC, la compagnie serait en relation avec plusieurs géants de l'industrie du gaming intéressés par cette nouvelle technologie. De la concurrence pour iTunes. Le lecteur de musique d'Apple a de la sérieuse concurrence ce mois-ci, puisque récemment, les lecteurs Amarok ainsi que Songbird débarquaient sur macOS 10. Grâce au port de Kodia 4, Amarok, une référence depuis quelque temps pour les utilisateurs de Linux, fonctionne donc maintenant nativement sous macOS 10. Songbird, quant à lui, même s'il en est à sa version 1.0, est solidement backé par ses développeurs, puisqu'il compte parmi leurs rangs plusieurs membres qui ont participé au développement de Winamp, ainsi que du Yahoo Music Engine. L'arrivée de ces deux logiciels sur le terrain de jeu d'Apple devrait avoir un impact plus que positif, puisqu'il pourrait stimuler le géant de la pomme à augmenter drastiquement les fonctionnalités d'iTunes pour rester compétitif. Il pourrait même aller jusqu'à forcer l'ouverture de ses extensions. Nouveau processeur chez Intel. Le 3 novembre dernier, Intel procédait au lancement de sa nouvelle gamme de processeurs, les Core i7. De loin plus rapide que ses prédécesseurs, les Core 2, ces nouveaux processeurs disposant d'une nouvelle architecture de front-side bus fournissent un potentiel de 6.4 gigatransferts par seconde. Grâce à un nouveau canal de mémoire contrôlé, ils offrent également jusqu'à 3 fois plus de bandwidth avec la mémoire DDR3. Ces nouveaux processeurs, déjà en production, devraient commencer à arriver dans les magasins dès la fin du mois. OpenBSD 4.4 Releasé. La nouvelle version du système d'exploitation OpenBSD vient tout juste de paraître au début du mois. Parmi les nouveautés, on note la présence de OpenSSH 5.1, Xenocara, GNOME 2.20.3 et KDE 3.5.8. Les machines utilisant des processeurs Ultra Spark 4 T1 ou T2, ainsi que les Fujitsu Spark 64, 5, 6 et 7 sont également supportées. Rendez-vous donc au openbsd.org pour tous les détails ainsi que pour télécharger le OS. AVG Antivirus attaque Windows. Le populaire AVG, qui offre une version gratuite de son antivirus, semble avoir causé beaucoup de troubles suite à sa mise à jour dimanche dernier. En effet, suite à cette mise à jour, l'antivirus détectait le fichier user32.dll comme une menace et proposait à l'utilisateur d'effacer le fichier. Certains utilisateurs de Windows ont donc dû, après avoir fait cette mise à jour, faire une restauration de leur système grâce au Recovery Mode. Une contre-mise à jour aurait donc été lancée peu de temps après, mais plus de 80 millions d'utilisateurs auraient toutefois été victimes de cette erreur. Serait-ce la fin pour Phoenix Mars Lander? La NASA annonçait aujourd'hui, après 8 jours sans nouvelles de sa sonde sur Mars, que l'éventualité d'une défaillance technique majeure pourrait être envisagée. La sonde qui avait atterri sur les plaines martiennes en mai dernier avait réussi à progresser malgré l'arrivée du froid et de la noirceur de l'hiver martien. Après 8 jours sans nouvelles, donc, la NASA annonce que la communication effectuée avec sa sonde le 2 novembre dernier pourrait avoir été la dernière. Même si Phoenix Mars Lander ne répond plus, la NASA continuera toutefois d'essayer de contacter sa sonde, mais dit ne plus s'attendre à de réponses. Nouvelle carte monstre pour Nvidia. Le fabricant de cartes 3D Nvidia annonçait aujourd'hui le plus puissant modèle de son histoire. Amateurs de gaming, ne vous réjouissez toutefois pas trop vite, puisque ce nouveau modèle, équipé de 4 GB de mémoire DDR3 et de 240 cores parallèles CUDA, est disponible en prototype au faramineux coût de 3 500 $ US. Circuit City en faillite. Le numéro 2 de la vente électronique aux États-Unis, Circuit City, connu aussi sous le nom de La Source au Canada, viendrait aujourd'hui de se mettre sous la loi de la protection de la faillite, selon le Wall Street Journal. Sans surprise réelle, cette annonce fait suite à la précédente annonce de troubles financiers, ainsi qu'à celle du licenciement de 17% des employés. Seul point positif dans toute cette histoire, d'importants rabais à venir pour la période des fêtes chez La Source. Et dernière news techno, et non la moindre, des souris congelées clonées.
Reuters annonçait dernièrement que des scientifiques japonais venaient de cloner avec succès des souris dont le corps avait été congelé il y a 16 ans. Les experts en clonage du Centre de développement de biologie au Centre de recherche Riken à Yokohama ont annoncé que si des recherches étaient poussées en ce sens, elles permettraient éventuellement dans un avenir rapproché de ni plus ni moins ressusciter des espèces éteintes. Verra-t-on donc prochainement des mammouths revivre? Sommes-nous à la veille d'avoir un parc jurassique? Affaire à suivre. Et voilà donc, c'est ce qui complète le segment des news technologiques. J'espère que ça vous a plu. Ben sinon, nous autres, on s'en va en musique et le KPR vous revient tout de suite après cette pause.
Link engaged.
Sur le bitrate du tactical.fm.com.
Disponible 24 heures sur 24 partout dans le monde.
Écoute présentement
KPR.
Crackens Paradise Radio.
La radio paradisiaque du Kraken.
Mount Sorrow. Bacana Jura.
We'll be right back.
Kraken's Paradise Radio. Une expérience orgasmique.
Mystique Production présente
samedi le 15 novembre dès 20h
en direct de l'Observatoire de la Capitale
au 31e étage du Complexe G.
On spin de l'électro toute la nuit.
C'est le Solaris Légende d'automne
avec Maneskimo, Septronic, Kimo et David Gill.
Admission 15$.
Billets en vente chez Exo, Zone Urbaine et Platine.
Info 24h 621-6000 worldschool.ca.
En direct de nulle part, parle-en.
Depuis quand direct de nulle part est entré dans ma vie là, ben je capote.
C'est vraiment bon, c'est super.
Ça torche.
C'est trop, hein? En direct de nulle part.
C'est au bout.
Ça sonne comme une tonne de briques.
C'est de la creuse de marbre.
En bien.
En mal.
N'importe comment.
Mais parlez-en.
C'est important.
En direct de nulle part, c'est non seulement un One Gang Show live le vendredi à 20h, mais c'est disponible aussi où tu veux, quand tu veux.
Respect ton podcast.
Toutes les infos, une seule adresse.
www.eddnb.com.
Des Lémuriens et d'autres Lémuriens. Rapidement, ils échangent de l'information. Facilement, l'Underground trace son histoire. Un blog pour les Lémuriens. Mindkind présente Planète Underground. www.mindkind.org.
Mystique Productions présente en collaboration avec Frontenac Musique
le vendredi 21 novembre dès 22h à la taverne urbaine Chimo de Québec
avec Cyr, Ultra, Cloudel et Kimosen et MXS.
C'est la soirée électro-pas propre.
Entrée 5$ et un cadeau est offert si t'apportes ton savon.
RadioShockLive.com
sur Radio Parallèle XM et RadioShockLive.com.
Le choc, la radio non traditionnelle. Radio Choc.
Kraken Parabellus Radio.
Trice. Trust.
Disengaged.
On est de retour de la pause et maintenant le copieur vire en mode talk radio puisque je vous propose d'aller écouter l'entrevue que j'ai réalisée avec Tess Domi, le co-animateur du podcast With Cheese sur Tactical, réalisé ça le 13 octobre dernier. Donc, c'était concernant la crise financière et c'est encore d'actualité. Donc, voici l'entrevue.
Link engaged. New player.
Salut Tess Domi.
Bonjour Kraken.
Hey, merci d'être là.
Ça va toi?
Ben, je me le demande, là. Est-ce que je suis en train de virer parano ou est-ce qu'on a, on n'est pas en train de vivre un moment historique, un moment un petit peu stressant? Parce que j'ai l'impression que c'est le un peu l'effondrement de l'Empire américain. Est-ce que je me trompe?
Ben, ça fait des années que c'est le genre de choses qui est discuté et qui est prévu. Et tel que Ron Paul, le congressman américain du Texas, l'a mentionné à Fox News la semaine passée, il dit « Vous êtes privilégiés, les plus jeunes, de pouvoir assister à l'effondrement d'un empire. »
OK. Donc,
ça fait longtemps que ce gars-là, il est très au courant de comment ça fonctionne, l'économie américaine. Puis, une de ses plateformes sur laquelle il se présentait pour comme candidat américain, c'était justement de suspendre d'éliminer le fonds la réserve fédérale américaine puis l'IRS qui est l'équivalent de Revenu Canada.
OK.
Parce que c'est des instruments qui sont des problèmes.
OK, puis dans quel but tout ça? Est-ce que je trouve ça drôle, hein? Le timing est weird, tu sais, on est en campagne électorale aux États-Unis, puis là, soudainement, on tombe en campagne électorale au niveau du Canada aussi, puis là, bang, le crash arrive tranquillement, puis là, en plus, ça touche pas juste les États-Unis ni le Canada, là, ça touche l'ensemble du monde, là. Tokyo qui est affecté, je suis beaucoup aussi avec l'euro, là, avec Sarkozy qui annonce une récession, puis fait que là, je vois que c'est à l'échelle du monde un peu. Qu'est-ce qui se passe? Comment toi, tu vois ça, Tess Domi?
Moi, je pense que c'est une correction de marché qui est intéressante. Parce que, de la manière que je le vois, les riches deviennent moins riches. Puis, je trouve ça bien. Par contre, le problème, c'est que les pauvres vont en payer des conséquences aussi. Je te dirais que...
Mais attends pas, là, tu dis les pauvres vont payer les conséquences. Moi, ce que je vois, c'est ce que j'entends beaucoup autour de moi. Les gens qui me disent, c'est pas grave, Yann. On est dans la classe moyenne, c'est pas la fin du monde, là. Nous, on perdra pas gros, c'est plus les gens qui ont de l'argent de placer, qui ont de l'argent dans des actions, par exemple, qui en perdent beaucoup ces temps-ci. Là.
OK. Ben, je vais te ramener ça.
Est-ce que la classe moyenne pourrait être touchée, là?
Ben, regarde, il y a, dans le secteur financier aux États-Unis, dans le mois de septembre, il y a eu 159 000 emplois qui ont été perdus. Est-ce que tu crois que ça ne les affecte pas, la classe moyenne?
OK.
On se comprend?
Ouais, on se comprend.
OK. Fait que, oui, ça affecte tout le monde.
Okay.
Puis t'as beau être riche ou t'as beau avoir plus de sous, si tu fais 50 000 par année puis mettons 70 000 par année, puis t'as des dépenses, t'as 70 000 par année, si tu perds ta job, t'as quand même des comptes à rendre. Puis là, ben t'es rendu faisant partie de 159 000 autres personnes dans le domaine financier qui soudainement se cherchent un job. Fait que qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te relancer dans la poterie?
Non, mais c'est ça, là, en même temps, ouais, en tout cas, je sais pas, en même temps, c'est sûr, il y a beaucoup de gens qui me disent, bon, au Canada, c'est moins pire, on est moins menacé que par rapport aux États-Unis, est-ce que c'est vrai, tout ça, d'abord, est-ce que notre monnaie aussi, là, est-ce qu'elle a une valeur refuge au niveau de l'or, par exemple?
OK, ça, c'est plusieurs questions. La première, c'est que le Canada, on est mieux placé qu'aux États-Unis, parce que notre système économique fonctionne d'une façon légèrement différente.
C'est-à-dire?
Moins
spéculative, peut-être, comme monnaie?
Ben c'est plus de la façon dont on gère les prêts bancaires. Ici, c'est pas aussi capoté puis surélevé que ce qu'il y a aux États-Unis. C'est ce qui fait qu'on a une certaine sécurité parce qu'on a moins de pertes possibles ici.
On est peut-être moins à risque un peu, là, je veux dire, dans le sens que on risque moins. Là.
C'est exactement ça.
OK.
Puis on est selon c'est quoi, c'est l'autorité, je ne sais pas c'est quoi le nom de l'organisme qui check ça, je l'ai à quelque part cet article là, mais les banques canadiennes sont cotées première mondiale au niveau de la stabilité de leur système, ensuite suivi par la Norvège, la Finlande puis un paquet d'autres pays comme ça, puis l'Angleterre qui était 7e je crois vient de tomber 44e.
Ouch. À cause du crash.
Ben regarde, l'Angleterre est en train de se préparer pour faire un plan de sauvetage, pareil comme le bail-out américain.
Ah ouais.
Et un bail-out de près de 400 milliards de pounds, ben, ça revient à 182 milliards US. Ils sont en train de préparer ça. C'est, écoute, là, on est en train d'enregistrer ça à minuit 32, le 13 octobre.
On est maintenant le 13 octobre, ouais.
Bon, ben, dans à peu près une demi-heure, ouvre les marchés de, pas vrai. Je pense que c'est dans l'équivalent de à peu près une heure et demie que l'Angleterre devrait annoncer leur plan.
Okay.
L'Allemagne, quant à elle se prépare avec un autre plan de 400 milliards d'euros pour 516 milliards américains, parce que leurs banques ont des problèmes aussi. Il y a des pays comme l'Islande qui est quasiment dans la faillite, qui ont demandé de l'aide de plein d'autres pays. L'Estonie, la Latvia, la Lituanie, le Kazakhstan, l'Ukraine, l'Argentine sont les pays qui sont très vulnérables à une faillite présentement. Il y a des marchés boursiers qui ont fermé
Je regardais la bourse de Tokyo, là, qui sont beaucoup plus en protectionnisme. Ils ont retiré leurs investissements, là, au niveau américain.
Oui.
Puis je pense que la Chine aussi a fait un move dans ce sens-là aussi.
La Chine a rendu illégal tout ce qui est investissement et prêt dans des banques américaines.
Bon, c'est ça. Fait que, en tout cas, d'après ce que tu décris présentement, là, ça chie mondialement. OK. Donc, est-ce qu'on serait pas en train d'assister à un takeover monétaire à l'échelle mondiale?
Ben, du moins, si c'est pas un takeover maintenant, on est en train de se placer, de placer les pions, puis de motiver les gens pour combiner des monnaies, combiner des économies, des choses comme ça. Comme là,
dans le fond, pour le commun du mortel là, qui regarde ça, là, on pourrait se dire, à l'image des fusions forcées qu'il y a eu au Québec, on est en train de vivre des fusions forcées à l'échelle monétaire dans le monde.
Ben, elles sont peut-être pas forcées pour l'instant, mais mettons que ça commence à apparaître dans sur le radar des politiciens. Dans le sens que ils commencent à en parler. Et c'est des choses qu'on sait qui s'en viennent depuis longtemps, cela là.
Non, je sais, j'écoute le podcast puis je le vois bien. Là.
Ben, au mois de mai, il n'y a pas trop longtemps, l'économiste en chef de la banque TD a annoncé que ça serait une super bonne chose de pouvoir mélanger sous une seule économie le dollar américain puis le dollar canadien. Ça serait profitable pour le pays. Ce qui n'a absolument aucun bon sens. Parce que nous autres, on est chanceux justement de ne pas avoir un dollar américain, de ne pas avoir une économie américaine. T'imagines-tu comment est-ce qu'on serait obligé de supporter ça, cette dette-là? C'est ridicule, là, voyons donc. Fait que, non, c'est ça.
Il n'y a pas un journaliste de la CBC, justement, là, qui avait fait un reportage là-dessus, là.
Sur
le fait, justement, qu'on fusionne les monnaies canadiennes puis américaines, là.
Je
me souviens plus le nom du gars, mais en tout cas, j'avais trouvé ça bien drôle. C'est le gars qui fait des Sours 22 Minutes, me semble.
Toi, tu parles de Rick Mercer.
Oui, c'est ça, je pense. Okay.
Ben, ça, c'est Rick Mercer, c'est son show, lui.
OK.
Ouais, il y en a parlé de ça.
OK.
Mais de toute façon, il est pas tout seul, il y en a plusieurs autres qui l'ont mentionné, puis ça fait plusieurs années que Lou Dogs, à CNN, qui est un commentateur financier à CNN, ça fait longtemps qu'il parle de ça. Lui, c'est 2002-2003 qu'il parle que c'est en branle présentement, ces choses-là.
OK. Là, moi, je m'inquiète, là. Honnêtement, je te le dis, je m'inquiète. Okay. Puis je m'inquiète à plusieurs niveaux. D'abord, en quoi ça nous touche ici concrètement au Canada? Bon, moi, je parle du Canada parce qu'on est au Canada, t'es Canadien aussi. Mm-hmm. C'est sûr que je suis conscient qu'avec les podcasts, puis tu sais, on a rejoint peut-être des gens en Europe aussi, là. J'essaie de voir aussi peut-être un peu à l'échelle mondiale, là, un peu plus comment ça peut toucher la classe moyenne, le commun du mortel qui travaille puis qui met trop boulot dodo, là. Est-ce que, mettons exemple, est-ce que les cannes de soupe, par exemple, vont se mettre à coûter 5$ dans pas long, tu sais?
Ben, peut-être que oui, peut-être que non, je sais pas.
Est-ce que le coût de la vie va augmenter concrètement, hein? C'est-tu quelque chose qui est pensable, qui pourrait arriver, ou...
Ouais, personnellement, je crois que oui. Regarde, c'est pas compliqué. Nous autres, présentement au Canada, comme je te disais tantôt, on est un petit peu choyés, puis nos banques sont en train de jeter un œil du côté du sud de la frontière pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent acheter de l'autre bord. Fait que, tu sais, ils ont de la liquidité ici. Puis, par contre, faut que tu regardes, mettons, la valeur du dollar canadien. Le dollar canadien, il y a un petit peu plus que, à peu près un an, on était de part avec le dollar canadien, le dollar américain, on était à 1$, puis à un moment donné, on l'a dépassé. OK? Mais là, présentement, le dollar a clos vendredi à 86 sous.
Ouais, 86 cents, puis l'année passée, à pareille date, on était à 1,03$.
Bon, ben, tu vois, on vient de perdre, donc, ça fait 17 cents. OK? Mm. ben si dans nos ex, dans nos importations, ça nous coûte 17% plus cher. Fait que ce coût-là, il est retransmis dans les coûts aux consommateurs.
OK.
Fait que toi, c'est sûr que tes affaires vont coûter plus cher. Puis là, oublie pas, ton essence va coûter plus cher. On l'a vu, là, je sais pas si tu as remarqué, là, mais le prix des commodités, les commodités ont augmenté dans les épiceries depuis quelques mois parce que le prix de l'essence a monté dramatiquement.
Ouais, c'est vrai.
Fait que ce coût-là est retransmis aux consommateurs.
Justement, petite parenthèse, là, l'essence, là, comment ça se fait? Le baril baisse, mais le prix à la pompe, là, on dirait que non, ça baisse pas. Là.
Ben, je sais pas, puis j'aimerais vraiment ça le savoir.
OK. En tout cas, je vais pas faire une trop longue parenthèse là-dessus, mais moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a une mafia qui est en place puis qui contrôle le prix de l'essence.
Ben,
ça, oui. Justement, ce sujet-là, je suis pas quelqu'un qui écoute beaucoup les médias puis tout ça, mais là, avec la crise économique, on s'entend, je me suis mis à suivre un peu plus, là. Puis j'ai pogné un petit reportage, c'est La Facture à Radio-Canada,
ouais.
qui ont carrément fait un reportage là pour dénoncer un cartel, justement, qui contrôlait les prix de l'essence là dans la région de la grande région étendue de Québec, Laurentides et Montréal.
Ouais, je l'ai écouté, ce reportage. Je l'ai ici, puis, ce reportage.
Ouais, ben, en tout cas, je trouvais ça inquiétant. Je me dis, s'il y a des magouilleurs à petite échelle comme ça, et là, je reviens avec l'économie mondiale, là, mais mon Dieu, au niveau mondial, il y a sûrement des magouilleurs aussi. Là. Fait que ce qui se passe présentement au niveau de la crise économique, puis on s'entend, moi je vois ça plus comme un crash économique, là, parce que ça drop, puis ça arrête plus. Ben je me dis à qui ça profite, dans le fond, là, tu sais, c'est un peu ma crainte aussi, là. Je me dis, y a-tu des pouvoirs là, de je sais pas, tu sais, est-ce que c'est la Chine, par exemple, qui. Parce que là, c'est ça, faut remettre en contexte, là. Supposément que toute cette crise-là qui partirait des États-Unis proviendrait je cherche mes mots un peu, là, excuse-moi, qui proviendrait des hypothèques, je pense, en tout cas au niveau de l'habitation américaine, là, il y a un problème dans ce coin-là, puis c'est ça qui aurait originé la crise finalement. Là.
Ouais.
Mais j'ai de la misère à croire que juste ça peut déclencher un tel torrent de crise économique partout dans le monde.
Là. OK, ben regarde bien.
Parce que là, c'est, excuse-moi, mais ça me dépense, c'est gros en salle.
Ouais,
puis tout ça, c'est causé par les problèmes financiers au niveau de l'habitation américaine. Voyons donc.
Ouais, mais c'est ça. Mais il faut que tu comprennes qu'est-ce qu'ils font les banques avec ça. C'est ça le problème. Quand tu vas en Californie, v'là quelques temps, pas maintenant, parce que maintenant, les banques, ils prêtent de façon plus protégée, moins de risques.
Ouais.
Mais pendant quelques temps en Californie, là, pendant plusieurs années, quand tu voulais acheter une maison, les maisons valent tellement d'argent, puis les gens ont tellement pas le salaire pour être capable de payer ces maisons-là, que les banques, ils étaient pas intéressés à savoir si ton salaire était suffisant pour payer la valeur de la maison, ils étaient juste intéressés à savoir si ton salaire était suffisant pour payer les intérêts. OK? C'est tout.
Dans le fond, ils planifiaient de payer ça sur plusieurs générations.
Ouais, ouais. Puis les banques qui prenaient, les banques te faisaient le prêt, mettons, de 1 200 000 pour acheter ta maison à ton 4 pièces à Beverly Hills. Mais sauf que t'avais pas 1 200 000. Ta maison vaut ça. Mais en intérêt par mois, ben ça va te coûter 2 000, 3 000 par mois. Ben est-ce que ton salaire peut payer ça? Si oui, ils te faisaient ton prêt. Fait que tu vois la distinction entre les deux. Donc la banque prenait l'argent. Payait la valeur au complet de la maison, qui était remboursée ou qui était payée à une autre personne, puis là, les intérêts étaient payés là. Mais sauf que, il fallait que la banque, elle crache l'argent. Mais, fait que donc, eux autres, ils prenaient ce qu'on appelle des assurances là-dessus. Fait que là, ils allaient faire affaire avec des courtiers d'assurance comme Lehman Brothers, comme AIG. Puis ces compagnies-là achetaient en package, en paquet, des protections sur les possibilités que les gens fassent défaut sur leur hypothèque. Fait qu'ils achetaient des hypothèques à risque. Fait qu'il y avait des hypothèques 3A, des junk, qui avaient des mauvaises, des bonnes. Tout était packagé ensemble, puis c'était vendu aux différentes entreprises de réassurance. Mais à un moment donné, les gens étaient plus capables de payer, fait qu'ils commencent à tranquillement faire faillite. Mais les banques aussi ont besoin de couvrir leurs frais. Ces frais-là sont pas couverts, donc les banques commencent à faire défaut. Ça crée un effet d'entraînement.
Un effet domino, finalement.
Puis c'est ça que, puis là, ben, les compagnies entre eux autres, les grosses compagnies de ce monde, ils s'échangeaient ça. Fait que là, mettons, AIG avait un package, venait d'acheter un package d'une banque, puis eux autres, ils partageaient leurs risques avec une compagnie d'Europe, OK? Puis, mettons, avec la JP Morgan, mais avec les bureaux, mettons, la Goldman Sachs ou la Deutsche Bank. Fait que là, ils vendaient un paquet à la Deutsche Bank, qui, elle, recevait ça, puis là, après ça, ils échangeaient ça avec une banque au Japon, et puis ils en vendaient une partie là. Fait que, ultimement, ce que ça faisait, c'est que plein d'entreprises à travers le monde possédaient des morceaux de l'économie américaine.
Okay.
Et, fait qu'il y a l'effet qui est domino qui commence à se créer, fait en sorte que quand ça chie aux États-Unis puis qu'ils sont plus capables de payer, ça a des conséquences sur les autres entreprises qui ont des investissements dans ces entreprises-là aux États-Unis.
OK, puis c'est à ce niveau-là que ça a affecté l'économie mondiale.
Et conséquemment, c'est pour ça que tu vois des choses comme ça, que le franc suisse est dans la merde, que la Russie ferme leur bourse pendant 2 jours, que l'Islande est sur le point de tomber, qu'il y a plein de pays qui tombent, que l'Angleterre, la France, l'Allemagne sont obligés de faire des gros prêts, des gros packages pour leur...
Je suis vraiment étonné, par contre. OK, oui, on est en contexte de mondialisation. Puis oui, c'est vrai que les marchés sont beaucoup plus proches qu'avant puis beaucoup plus interreliés. Mais je suis vraiment étonné de voir qu'il y a à ce point-là peu de protectionnisme.
Il y en avait du protectionnisme dans le temps, mais là, il faut plus qu'il y en ait. C'est ça que aujourd'hui, il y avait une... Ben, pas aujourd'hui, en fin de semaine, il y avait une conférence avec les pays du G20. En France, je crois. En France. Puis, justement, le mot d'ordre était de lâcher le protectionnisme. Puis, il fallait que tout le monde travaille ensemble. Le Fonds monétaire international ont annoncé qu'il fallait que tout le monde travaille ensemble aussi. Que ça soit tout dans la main. Puis que personne n'était immunisé, là. Fait que...
C'est ça. Fait qu'on s'attend à quoi là dans les prochains temps là? Est-ce qu'il y a lieu de paniquer? Est-ce que j'ai raison de m'inquiéter tant que ça? Ou est-ce que c'est juste quelque chose qui va passer puis que c'est du vent dans les branches puis faut pas s'inquiéter du bruit? Hein, t'sais?
Moi je pense que personnellement couvre les choses que toi t'as besoin pour vivre dans ta journée. Ok? Prends-toi de la bouffe de plus. Achète-en un peu plus de canage si tu veux. T'sais, mais c'est parce que le problème c'est que c'est pas ici là on devrait
faut pas céder à la panique puis s'acheter 6 000 piastres d'épicerie là non périssable.
Non, à mon avis t'as pas besoin de faire ça.
OK.
Pas autant. Par contre, tu pourrais peut-être c'est pas une question de changer tes habitudes, c'est une question de comprendre que ça se peut que tous tes coûts augmentent. Fait que si tu veux mettons là que tous tes coûts augmentent de 20% à l'épicerie dans 3 semaines, ben si tu as fait ton épicerie maintenant puis tu as mis 200 piastres, ben ça t'aurait coûté 240 la semaine prochaine.
OK.
Ben tu peux peut-être te préparer puis te dire OK, c'est beau, je vais me faire une épicerie de canage. Tu sais, juste une. Parce que je les perdrai pas. Fait que tu pourrais te faire ça. Moi personnellement, c'est ce que j'ai fait. Puis s'il y a des gens qui écoutent ton émission puis qui ont des sous qui sont capables de mettre de côté. Moi j'ai été acheter de l'or pour des amis parce que moi j'ai pas assez de sous pour faire tout ça, mais j'ai été acheter de l'or pour des amis. Puis, okay. Le silver, présentement, il n'y en a plus sur le marché. C'est super difficile à trouver. Mais j'ai acheté de l'or pour eux autres. Puis, tu achètes une once d'or ou 5 grammes ou 10 grammes. Puis, c'est toutes des choses qui, plus tard, quand l'économie va devenir bien meilleure puis que la confiance va reprendre, là, quand l'or, à ce moment-là, l'or va descendre de prix. Puis, à ce moment-là, tu le vends. Tu le vends avant qu'il tombe. Quand tu vois que c'est beau, ça va bien, là. Ben là, tu revends ça. Puis si tu le revends, si tu étais chanceux, ce qui devrait pas être difficile, tu devrais faire autour de 30, 35, 40, 45% de profit sur ton or.
Intéressant.
Non, ça vaut la peine. Dans la dernière grosse crise économique qu'il y a eu en 1980 aux États-Unis, l'or a monté à 2 800 $. Présentement, l'once est à 800 quelques dollars. Si je regarde maintenant, là, je peux checker ça tout de suite, là. Je vais ouvrir, j'ai un lien rapide pour ça.
OK, bon, vas-y.
L'or présentement est à 869,90. Okay. Ça, c'est les marchés asiatiques qui ont ouvert il n'y a pas longtemps. L'or vient d'augmenter de 19 $.
Okay.
Donc, puis ça vient de monter. Fait que si je regarde la tendance au niveau de l'année, je veux dire, ça monte, là, tu sais, fait que.
C'est un prix à la livre, à l'once, quand ça marche?
À l'once. Ouais.
À l'once. Okay.
L'once. Une once, c'est 31,1 grammes.
Okay.
Fait que c'est ça.
D'accord. Fait que d'habitude, l'or, c'est quelque chose qui est beaucoup plus stable que le dollar ou que n'importe quelle autre valeur. Ouais,
tantôt, tu parlais que tu avais une question à propos de la valeur refuge.
Ouais, ben c'est ça. Là.
Maintenant, l'or, puis le silver, le palladium, le platine, puis le palladium, c'est pas la place à Québec là, pour sortir. les métaux, le cuivre, les choses comme ça, c'est des choses qui ont toujours une valeur fixe.
Okay.
C'est, tu sais, des fois on va dire que l'or vaut plus ou l'or vaut moins, mais c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça fonctionne. En réalité, c'est que ton argent vaut moins ou ton argent vaut plus par rapport à l'or.
OK, l'or fluctue pas?
Non, l'or ne change pas. Un exemple de ça vraiment simple à comprendre, c'est que dans le temps des Romains, comme 2000 ans, avec 5 grammes d'or, OK, 5 grammes, tu pouvais acheter une paire de sandales qui avaient de l'allure, une toga, c'est-à-dire le vêtement de qualité, puis une ceinture qui avait de l'allure, puis tu passais pour un des sénateurs là, de la place, OK? Aujourd'hui, avec 5 grammes d'or, tu peux acheter une paire de souliers qui a de l'allure, un complet avec veston cravate, plus une ceinture qui a de l'allure.
OK.
Il n'y a pas de différence. Okay.
Ben, je suis pas sûr que le commis à la caisse soit accepté que tu payes en or.
Ben, écoute, moi, je connais quelqu'un qui a acheté un véhicule automobile en or.
Ah ouais?
C'est sûr que le gars, il a peut-être pas le change, là. Il a peut-être pas ce qu'il faut pour t'aider. Puis il va peut-être te dire, ben, ça serait peut-être bien que tu me donnes des billets, là. Mais en tout cas, le point est simple. C'est que l'or ne fluctue pas.
Okay.
C'est pour ça que c'est une valeur refuge. Mais au Canada puis aux États-Unis, ce n'est plus une valeur refuge depuis 1933.
Quoi? Et on n'a pas de valeur refuge au Canada avec l'or?
Non.
Ah, ouais?
L'or puis...
Tu me l'apprends, là. Vraiment, j'étais certain qu'au Canada, on avait conservé un système de valeur refuge avec l'or.
Non, c'est l'ordre en conseil... Comment ça s'appelle? C'est en 1913, je pense, c'est l'ordre en conseil... Ah, je me souviens pas. Mais je l'ai quelque part dans mes papiers là. Parce que ça a commencé en 1913 avec le système pour la Banque du Canada avec le système précurseur. Puis après ça en 1934 quand la Banque du Canada a été créée, à ce moment-là, on a commencé à voir l'apparition des dollars. Puis là, on avait suspendu le standard d'or. Puis aux États-Unis, ça se trouve à être je l'ai ici, là, etc. d'exige. OK, c'est la résolution House Joint Resolution 192 du 5 juin 1933 qui élimine l'or comme standard. Fait que c'est depuis ce temps-là que l'or aux États-Unis n'est plus une valeur refuge non plus. Fait que...
OK, fait que ça, c'est un peu plus inquiétant, là. Je veux dire, s'il n'y a pas de valeur refuge pour notre monnaie au Canada, on est peut-être un petit peu plus à risque de...
Ben, c'est ça. Je vais t'expliquer vite à ce moment-là comment le processus d'argent se fait. Parce que c'est là que tu vas réaliser à quel point c'est ridicule. C'est que, aux États-Unis puis au Canada, on a vraiment le même système, là. Aux États-Unis, mettons que le gouvernement a besoin de 1 000 $, il va approcher la Réserve fédérale américaine, qui est une institution privée. OK? Puis la réserve va...
Ouais, ça c'est louche un peu, là, que ce soit le privé qui subventionne le gouvernement.
Ouais, ben on en reviendra après si tu veux. Okay. Et donc le gouvernement américain a besoin de 1 000 $, ils vont aller voir la réserve fédérale américaine, ils vont dire « Hey, on aurait besoin de 1 000 $, peux-tu nous aider? » Puis là, la Fed va dire « Ouais, ben qu'est-ce que tu nous donnes en échange, tu sais? » Fait que là, le gouvernement va dire « Ben, moi je te donne 1 000 $ en bon du trésor. » Fait qu'il dit « Ok, c'est bon, on va prendre ça, mais tu nous dois les intérêts, par exemple. » Fait que là, le gouvernement dit « Ok. » Fait que là, ils reçoivent 1 000 $ de la Réserve fédérale, puis à 3% d'intérêt, il faut qu'ils donnent 30$. OK? Fait que dans un an, quand ils vont rembourser, il faudra qu'ils remettent le 1 000 $ plus le 30$. Mais, aux États-Unis, il n'y a personne d'autre qui a le droit de faire d'argent à part la Fed. Fait que si le gouvernement décide de rembourser son prêt, s'il décide de mettre le 1 000$ de côté, pour le remettre l'année prochaine, ils vont pouvoir le remettre, mais ils ne seront pas capables de donner le 30$. OK?
OK.
Il faut qu'ils l'investissent et qu'ils fassent des profits pour qu'ils réussissent à remettre le 1 030$ l'année d'après. Mais s'ils ne sont pas capables de faire ça, ce qui arrive tout le temps, le gouvernement va aller voir la Fed et va dire ben, on n'est pas capable de te le payer, fait qu'on peut-tu t'en emprunter d'autres pour payer ce qu'on doit puis continuer à faire nos affaires. Fait que là, la Fed va dire, ils diront pas non à leurs meilleurs clients, hein. Fait qu'ils vont dire, ben, pas de problème. Fait qu'ils en donnent d'autres. Avec toujours un autre 3% d'intérêt. Mais là, c'est pas juste 3% indépendant. C'est 3% de plus que sur le 3% que tu te payais avant. Puis là, ben, ça s'accumule. Fait qu'éventuellement, t'arrives à un certain moment donné où ce que la Réserve fédérale va dire, ben là, tu peux plus payer puis nous, on peut plus t'en donner. Fait que c'est le temps que tu payes.
Assume.
Donc, si t'es pas capable de payer, ben tu déclares faillite. Puis nous, on va venir chercher tes actifs.
C'est tout ça qui est en train d'arriver aux États-Unis?
Je te dirais pas que c'est ça qui arrive, mais par contre...
Ça pourrait être ça éventuellement.
En réalité, de toute façon, les États-Unis sont en faillite depuis le 9 mars 1933. Depuis le 5 juin 1933 à 4h40 de l'après-midi. C'est,
oh, ouais.
C'est ça la résolution 192. Quand ils ont ça?
Pour une faillite, ça dure longtemps.
Ouais, ben, ils sont en faillite perpétuelle. En réalité.
Okay.
Fait que quand la faillite des États-Unis a été, est arrivée, c'est à ce moment-là qu'ils ont, mis en place le Social Security Act, qui se trouvait à être la loi qui créait les numéros d'assurance sociale pour tous les citoyens, pour pouvoir donner ensuite les numéros, au bureau de revenus internes, qui est devenu l'IRS, qui se chargeait de la collection, parce que l'IRS, c'est une agence de collection. Fait que, il fallait qu'il y ait un organisme en place pour gérer la faillite. Ce qui se trouve être l'IRS.
Okay.
Fait que tu vois. Puis ici, au Canada, notre dollar fonctionne relativement de la même façon. On a une économie de papier sur laquelle l'or n'est pas, une valeur refuge. Fait qu'éventuellement, ça va nous arriver, la même chose va nous arriver, là. Okay? C'est, l'économie de papier, c'est destiné à tomber. C'est pas compliqué, c'est destiné à tomber. Fait que, le meilleur moyen qu'on a, c'est que si nous, ce qu'il nous faudrait, là, comme peuple, là,
c'est du e-cash.
Ben non, c'est pire. C'est pire. Ton argent électronique, là, quel contrôle que t'as là-dessus?
Ah, c'est vrai, puis ça, à la limite, ça tombe quasiment dans le crédit direct.
Ben, c'est ça. Fait que là, je rentre pas dans comment les banques font l'argent, là, OK, là, puis comment les autres ils prêtent, OK, là, ça, c'est une autre histoire complètement, là, mais c'est absolument spectaculaire comment est-ce qu'ils se font fourrer, là. Avec un prêt de 10 milliards, ils peuvent emprêter presque 91 milliards,
OK, okay.
Avec 10 milliards de base, ils prêtent autour de 91 milliards. Okay. Il crée cet argent-là out of nowhere, à partir de rien.
Mais c'est ça, c'est un peu ça qui me fait peur aussi, c'est que je me rends compte qu'il y a beaucoup d'argent qui est virtuel. Là.
Oui.
Il y a de l'argent qui est non existant. Oui. Un peu à l'image d'un Simpson, là, quand Bart il se met à semer la panique dans la banque, puis que finalement tout le monde veut retirer son argent en même temps, puis que la banque n'a pas assez de liquidité. Mais c'est un peu ça que je vois, dans le fond.
Mais c'est exactement ça qui est arrivé en 1933.
Moi, ouais, ben justement, 1933, 1929, là, je pense que ça doit être relié un peu. Hein. Est-ce que ce qui s'en vient là, sur nous, tu sais, on parle de récession présentement, hein, mais en même temps, c'est un peu un crash économique aussi, puis éventuellement, c'est peut-être ça qui va arriver. Est-ce que ça pourrait être d'ampleur équivalente à peut-être ce qui est arrivé en 1929?
Ben, il y a certaines choses qui sont déjà pires.
Exemple,
les entreprises comme General Motors. OK, qui sont vraiment dans la merde depuis longtemps, ils ont leur fonds de capitaux.
Ouais, mais attends un peu, le GM, juste mettre en contexte, il y a une concurrence au niveau du marché japonais beaucoup, puis de plus en plus les gens préconisent à cause de la montée des prix de l'essence, vont chercher des plus petits modèles aussi.
Okay.
Puis GM a eu tendance longtemps à faire des gros modèles, des gros V6, des gros V8.
Je comprends, mais on parle pas de ça.
Non, je sais, mais ça impacte pareil dans le chiffre d'affaires.
Ça impacte maintenant, sauf que dans le temps, quand GM et c'est une entreprise qui sont obligées de dévouer un peu plus que 40% de tout leur profit, un peu plus de 60% de tout leur argent qu'ils reçoivent, va dans leur fonds de pension.
OK.
Fait que 60%, parce qu'ils ont tellement d'employés pendant le baby boom, puis ces gens-là sont tout en train de sortir du marché, ben tout leur argent, presque 60% des revenus vont juste là. Okay. Bon, okay. Présentement, là, General Motors, leurs fonds de capitaux, là, sont moins élevés que ce qu'ils avaient pendant la crise de 1929. Okay. L'indice de Dow Jones a perdu plus de points en une semaine que pendant ses 120 dernières années d'existence.
Ah, oh, ouais. Okay.
Fait qu'ils ont perdu, 18,2% en une semaine. Okay. En 5 jours d'activité, là. Puis là, oublie pas, ils l'ont fermé à un moment donné, là. Okay. La Russie a fermé son marché boursier pendant 2 jours. L'Islande l'ont fermé pendant 2 jours. L'Angleterre l'a suspendu. Le Japon l'ont fermé. Hey, le Japon, jeudi ou vendredi, ils sont tombés de 9,6% en une journée, puis ils ont fermé ça. Parce qu'après 10%, ils appellent ça un crash économique. Fait qu'ils l'ont arrêté à 9,6%. Ils ont dit, OK, c'est beau, ça suffit. On veut pas que ça s'appelle un crash. Fait qu'ils ont fermé la bourse.
Ah ouais. Ouais. Mais c'est pas un peu jouer à l'autruche, ça.
Oui, mais c'est limiter les dégâts.
Non, mais...
C'est tenter de limiter les dégâts.
Ouais, OK.
Fait.
Mais dans le fond, c'est ça, là. Moi, en tout cas, je regarde les médias un peu depuis quelque temps, puis j'ai l'impression qu'ils banalisent beaucoup la situation, là. On dirait qu'il passe ça dans les faits divers, puis que tu sais, il en parle mais pas trop, puis il parle de récession plus que de crash économique, puis on parle trop alarmiste. Puis pourtant, moi, ce que je vois dans les faits, puis je check à tous les jours, je check le Dow Jones depuis une semaine, ouais, puis je vois que ça drop, puis mon Dieu que ça drop dans le bain tout le temps, tu sais. Fait que, je sais pas, il y a un petit peu de moi qui, c'est sûr, je veux pas être un paranoïaque pis un conspirationniste, là. Mais il y a une partie de moi qui se dit, Colin, c'est-tu un crash monétaire, un takeover carrément qui arrive, tu sais, pis qui est derrière tout ça, tu sais, ou je sais pas, en même temps, on voit que ça vient des marchés, au niveau de l'habitation aux États-Unis, là. Pis l'effet domino qui est amplifié pis tout ça, qui finit par faire le tour du monde un peu.
Regarde. Depuis 1929, à toutes les fois que tu entends parler qu'il y a des gros problèmes économiques, puis que soudainement il y a des banques qui apparaissent dans le décor pour venir aider les autres, ça a toujours été les mêmes. Ça a toujours été les JP Morgan, les Rockefeller, la Deutsche Bank.
Mais c'est ça, il y a du monde qui ont de l'argent. Allô?
Oui.
Ouais, ok. Excuse-moi, je pensais que ça avait coupé. Bon, c'est ça, non. Il y a du monde qui ont de l'argent, puis c'est sûr, regarde, plus t'as d'argent, plus que tu peux en perdre là, quand ça drop. Là.
Ouais, mais plus t'as d'argent, plus t'en as de toute façon. Fait que t'as pas en perdre pas mal, t'en as quand même plus que les autres.
Mais en tout cas, il faut quand même se rendre compte, c'est ça, là, je veux dire, il y a du monde qui contrôle l'économie, là, puis ça, c'est pas les gouvernements, il y a du monde qui sont...
Ouais, ça, c'est ça.
Tu sais, money talks, comme on dit, là, ben, il y a des gens qui ont tellement d'argent qu'ils peuvent même influer le gouvernement, puis tout ça, fait qu'est-ce que ça serait pas des gens, même, qui seraient derrière un peu tout ce qui se passe présentement, ou en tout cas, du moins, est-ce que ça serait pas des gens qui profitent de ce qui se passe présentement, puis qui amplifient la chose, en fait, là, parce que, veut pas, en tout cas, ça semble pas être... La cause est retraçable, donc ça semble pas être un complot nécessairement, mais quand même, on dirait que ça sert certains intérêts, puis quand tu regardes tout ce qui se passe, on dirait que ça prend une tangente dans une direction. On sait pas trop où ça s'en va, mais on voit que ça prend une direction.
Ben, j'aurais aimé ça être au meeting qu'il y a eu en fin de semaine pour pouvoir voir ce qui se passait.
Ben oui, il y a le G7 qui s'est réuni, je pense, pour...
Ben, en réalité, il y avait la fin de semaine de rencontre du Fonds monétaire national puis de la Banque mondiale en même temps, fait qu'ils ont tous combiné ça tout en même temps. Fait que la Banque mondiale, etc. Fait que non, ben, je sais pas s'il y a des gens qui tirent les ficelles à l'arrière de tout ça. Personnellement, je suis convaincu que oui. Parce que, je veux dire, avec les années, avec les histoires qu'on entend parler régulièrement, il y a rien d'étonnant là-dedans, là. Ça sera pas la première fois de toute façon. Fait que, de toute façon, puis quand tu parlais des gens, les réactions des gens, j'ai ramassé une couple de quotes, une couple de commentaires dans l'histoire, c'est des gens qui, mettons des premiers ministres, des présidents qui, ou des gens qui passaient des messages.
Okay, par rapport à ça.
Il y en a un de ceux-là qui disait que, si tous les prêts bancaires étaient remboursés, ok, ça c'est Robert Temple, qui est un ancien gérant de crédit pour la Atlanta Federal Reserve. Ok? Qui dit, si tous les prêts bancaires étaient remboursés, personne n'aurait de dépôt bancaire et il n'y aurait absolument aucun dollar ou pièce ou monnaie en circulation. Ok? Ça veut dire qu'il y a tellement d'argent qui ont été prêtés par les banques qu'il y en a juste plus qu'est-ce qu'il y a vraiment d'argent pour de vrai.
Okay.
Nous sommes complètement et absolument dépendants des banques commerciales. Quand un individu comprend ceci pleinement et voit l'image entière, l'absurdité tragique de notre incroyable position sans espoir lui est révélée complètement, et pourtant c'est là où nous en sommes rendus. Le problème, le système bancaire actuel, est le plus important des sujets sur lesquels les intellectuels devraient enquêter et réfléchir. C'est un problème tellement important que notre civilisation actuelle pourrait s'effondrer complètement, à moins qu'il ne soit compris par tous et qu'un remède ne soit proposé, et ce, très rapidement.
Qui a dit ça?
C'est un ancien boss de Atlanta Federal Reserve, la réserve fédérale, le bureau d'attentat. Il y en a d'autres qui ont dit, Andrew Jackson, le président américain Andrew Jackson, a dit, si le peuple comprenait la justice de l'argent et comment fonctionne notre système bancaire, il y aurait une révolution armée d'ici la fin de la journée.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le sénateur George Malone du Nevada, pendant le Congrès, en 1957, a déclaré devant le Congrès, il dit, je crois que si le peuple de cette nation comprenait pleinement ce que le Congrès leur a fait depuis les 49 dernières années, il marcherait sur Washington et n'attendrait même pas les prochaines élections.
Là, tu parles de prise d'armes puis de en tout cas ça me fait un peu peur là, mais en même temps je me dis est-ce que c'est pas quelque chose qui pourrait finir par arriver là, admettons là, je dépeins la scène, peut-être que c'est catastrophique, peut-être que c'est alarmiste, peut-être que c'est le paranoïaque en moi qui pense à ça puis qui extrapole trop en fait là, mais je me dis est-ce que ça se pourrait pas que l'économie là, le prix des commodités concrètement augmente d'une façon vraiment substantielle à cause de la récession, puis éventuellement un crash économique majeur, tu sais, puis que finalement, on se ramasse, là, pour le commun du mortel, classe moyenne et pauvre, on se ramasse à des gens qui sont plus capables de se payer une épicerie que d'allure, de payer leur loyer, ou on a le choix entre manger ou payer le loyer, ou tu sais, fait qu'on est confronté un peu à un manque d'argent concret, finalement. Oui. Puis bon, mélanger avec des pertes d'emploi, puis tout ça, ça se pourrait-tu qu'il y ait ce qu'ils appellent en anglais des riots, là, une émeute carrément là, à l'échelle américaine.
T'as souviens?
Parce qu'on le sait, faut le rappeler aussi là, aux auditeurs, là, je crois que c'est plus de 44 000 soldats qui ont été rapatriés d'urgence en provenance de l'Irak et de l'Afghanistan et qui sont maintenant en entraînement sur l'Américain pour une coalition.
Ils n'ont pas été rapatriés d'urgence, ils sont ici depuis le 1er octobre. Ils sont en fonction sur le territoire américain depuis le 1er octobre, mais ils étaient en entraînement pendant le mois d'avant de septembre en Géorgie. Leur but est de s'occuper c'est l'unité d'intervention militaire dans le cas où il y a des prises de contrôle de foule, des débordements civils, des problèmes dans des villes, etc.
Ben c'est ça. Moi, ce que j'avais lu, c'est qu'il était en training pour utilisation de ce qu'il appelle en anglais non-lethal weapon, donc des armes non mortelles pour du contrôle de foule.
Exactement.
Je me dis si l'armée puis la US Navy se prépare à quelque chose du genre. Est-ce que c'est parce que c'est pas dans les possibilités déjà qu'il y ait justement une émeute à l'échelle du pan-américain?
Te souviens-tu de il y a quelques mois, toi puis moi, on a eu une conversation à propos d'un scénario potentiel qu'il pourrait avoir aux États-Unis? Tu m'avais demandé une question par rapport à ça. Puis c'est moi qui t'ai répondu avec un scénario en 20 points, tu t'en souviens?
Ouais, puis à date, on est rendu qu'au point 5, là, sur ces... Bon, ouais, mettons que ton email, il m'a assez fait freaker, puis là, je me rends compte avec ce qui se passe que t'avais peut-être pas tout à fait tort, là, tu sais.
Ben,
puis c'est ça qui me fait peur.
Pour résumer pour tes auditeurs, là, les 20 points en question, je vais passer au travers rapidement, là, mais en excluant quelques-uns, parce que j'ai pas l'email devant moi, là. Mais quoi que si tu veux, je peux le sortir tout de suite, par exemple. Ça devrait pas être long, là. Ça te dérange pas?
Non, regarde, on va mettre une petite toune, puis on va revenir avec le email.
OK, ça marche.
Bon, ben, on va en musique, puis on revient.
Okay. Link engaged.
Xavier Caffeine, la fin du monde.
Ces années
Disengage. Test d'amis, maintenant, t'avais un email que tu m'as envoyé l'été dernier, je pense que c'était dans le coin du 6 ou du 7 août,
ouais.
Qui était un email en 20 points qui expliquait un peu là, qu'est-ce qui allait en venir peut-être au niveau économique. En tout cas, c'était plus une extrapolation de ta part, mais quand même, il y avait un questionnement derrière tout ça, puis je pense que ce serait bon que tu lis ça aux auditeurs présentement. Là. Je pense que c'est 20 points que t'as amené, on rappelle, c'était au début août, puis maintenant, ben ça colle pas mal avec ce qui se passe. Là. Vas-y, test d'amis.
Ben, je tiens à mentionner que je te dirais dans les années 2000, au début des années 2000, mon co-animateur Botrax, je lui avais demandé, je dis, ouais. Qu'est-ce que tu ferais si tu voudrais prendre le contrôle de la planète? Puis il m'a dit, il commençait à me sortir une couple d'affaires, puis moi, ce que je vais te lire là, c'est à peu près ce que je lui ai dit en 2000.
Ok. Okay.
Bon. Fait que donc, toi, tu m'avais demandé. La question que tu avais envoyée, c'était concernant la hausse du prix du pétrole. Botrax me disait qu'il y avait un lien avec la monnaie unique, le SPP, l'Amiro, puis il y a-t-il une guerre mondiale éventuelle en préparation?
Ouais, parce qu'il faut se rappeler, là, bon, on va remettre ça en contexte. Moi, je t'ai écrit au moment où le prix de l'essence montait en flèche. Puis ce que j'avais accès comme information, ce que je voyais, c'était que, bon, d'abord, le prix de l'essence monte. Ensuite, il y a des interventions armées un peu partout dans le monde. Et curieusement, là, soudainement, en l'espace de quelques mois peut-être, là, on s'est mis à stocker pratiquement le double de ce qui était stocké comme pétrole, finalement. Là. Fait qu'en voyant ça, moi, je me suis dit, ah ouais, pourquoi qu'ils stockent autant d'essence? Donc, le prix monte, oui, mais est-ce que le prix monte parce qu'il y a vraiment une rareté ou est-ce que justement c'est pas parce qu'il stocke de l'essence? Puis en stockant de l'essence, je me suis dit, pourquoi? Tu sais, qui bono, à qui ça profite? Puis ben je me suis dit, ben ça se pourrait que ça soit peut-être parce que l'armée prépare une attaque quelque part ou tu sais, il planifie qu'il y a peut-être une guerre intestine qui va arriver dans un pays du Moyen-Orient encore ou quelque part ailleurs aussi. Là. Puis à ce moment-là, il y avait la Russie aussi là, qui avait attaqué
la Géorgie.
La Géorgie, fait que je mettais ça en contexte, je me disais, oh, ça commence à brasser au niveau de la guerre un peu dans le monde. Fait que je me disais, est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive là-dessus, tout ça? Donc, je te pose cette question-là à ce moment-là. Dans l'optique aussi qu'il y avait eu le PSP, là, pas celui de Sony, mais le Privacy and Security Partnership qui avait été signé.
C'est le partenariat de sécurité et de prospérité.
OK, en français. Merci, test d'ami. Puis, ben c'est ça, par rapport à ça, tu sais, je sais que tu m'avais relancé avec la possibilité d'une fusion monétaire au niveau du Canada, des États-Unis et du Mexique, qui était discutée depuis déjà un bon bout de temps. D'ailleurs, j'avais tombé sur un YouTube là, de CNN en 2005 qui parlait justement de cette situation-là. Tout ça en contexte avec mes questions. Tu es arrivé avec 20 points.
Fait que je disais que, un, l'économie américaine continue à tomber, le prix de l'essence va monter, le prix des commodités aussi va monter.
On l'a un peu vécu.
Après tout, il faut repasser au consommateur l'augmentation des frais de carburant pour le transport des commodités en question. Le point 2, plus le temps passe, plus ça coûte cher de s'alimenter puis de se reprovisionner, et de plus en plus de familles doivent décider entre se nourrir puis payer l'hypothèque de leur maison. En point 3, conséquemment, plusieurs banques et courtiers font faillite. Bear Stearns, puis d'autres passent proches. À ce moment-là, j'avais écrit qu'ils passent proches. Fannie Mae puis Freddie Mac, mais finalement, ils ont été nationalisés. OK? Fait que c'est ce qui traîne l'économie vers le bas. Ensuite, pour aider les entreprises en détresse, le gouvernement autorise des bail-outs, puis la Fed imprime des milliards basés sur rien, parce que c'est pas basé sur l'or, pour tenter de sécuriser les entreprises. OK? N'oublie pas, là, c'était avant, là, tout ça, là. Les conséquences directes de cette manœuvre-là font augmenter l'inflation, ce qui fait augmenter le coût de l'approvisionnement. Puis les points 2, 3 et 4 se répètent jusqu'à ce que le gouvernement n'aide pas ou plus. OK?
C'est à peu près ça qui se passe.
Ensuite, s'ensuit la chute du dollar américain et le taux d'inflation spectaculaire qui l'accompagne. Le dollar ne vaut presque plus rien, puis les populations doivent quand même se nourrir et boire, et les épiceries sont donc prises d'assaut. Au point 7, à cause du vol et du vandalisme généralisé dans les lieux, la loi martiale est imposée et l'armée est déployée partout, ainsi qu'un couvre-feu. Si tu veux avoir un exemple récent, regarde la Louisiane versus l'ouragan Katrina. Parce que c'est ce qu'il y a eu. Je t'ai dit ça en ne sachant pas que l'unité de 44 000 soldats venait d'Irak, là, puis qui venait faire ça, là. À ce moment-là, la population américaine, qui est propulsée par son droit acquis à la propriété, à la possession d'armes à feu, envahit les dépôts de nourriture, même s'ils sont protégés. Le Congrès et le Sénat sont évacués depuis longtemps déjà, et leurs membres ainsi que leurs familles sont dans des endroits protégés, où ils sont nourris et logés le temps que la crise passe. La loi martiale est en effet et le Congrès et le Sénat étant évacués, le programme de continuité du gouvernement fonctionne à plein régime et les élections sont temporairement suspendues, laissant Bush au pouvoir. La crise américaine se fait ressentir énormément au Mexique, où le peso se perd 70% de sa valeur, et ayant perdu son principal partenaire d'échanges commerciaux. Ensuite, le dollar canadien, quant à lui, perd entre 20 et 25% de sa valeur, toujours soutenu par le pétrole et les produits céréaliers, parce qu'on en fabrique, beaucoup. Dans les trois pays nord-américains, les pertes d'emplois atteignent des records jamais vus depuis la crise de 1929, qui, elle, pâlit en comparaison. Je t'avais parlé des 159 000 emplois qui ont été perdus en septembre uniquement aux États-Unis. Bon, ouais. La population, point 15, la population nord-américaine commence à croire qu'il serait excellent de faire comme l'Union européenne, qui, elle, se tient debout haute et forte devant la chute du dollar américain.
Ça, je suis pas sûr.
Ben, c'est ça. Ils sont sur le point, ils sont en train de s'aider, là. On va voir jusqu'où ça va aller, par exemple. Okay. Mais quand t'as quand même une quinzaine de pays qui supportent ensemble, la France, l'Angleterre, puis non, c'est pas vrai, l'Angleterre fait pas partie de l'Union européenne. La France puis l'Allemagne sont les deux pays qui sont les porte-étendards de l'Union européenne, t'sais. Puis ils ont de l'argent en estime. Fait que c'est pas trop pire, t'sais. En tout cas, on va voir jusqu'où ça va aller. Puis de toute façon, la France n'a pas annoncé encore de bail-out, hein. Fait que eux autres, ils ont l'air à bien s'en tirer. Donc c'est ça. Donc on parle. Donc l'euro qui se tient plus fort par rapport au dollar américain, on commence à penser à une union nord-américaine, tu sais, laquelle est fermentée par CNN, Fox, CBS, CBC, TVA, Radio-Canada, TQS, etc. Nos politiciens de tous les bords commencent à nous vanter les mérites d'une union nord-américaine, qu'elle soit économique ou pas, pour nous sortir de ces méandres. Puis d'ailleurs, on entend parler maintenant un peu plus, là.
Okay? Oui, c'est vrai, beaucoup plus qu'avant. Ouais. Comme je te disais tantôt, avant, le seul feedback que j'ai vu médiatique, c'était CNN en 2005. Ouais. C'est la seule chose que j'ai pu retracer.
Ça va jusqu'en 2003. Là. J'en ai des vidéos qui vont de...
Ah, peut-être, mais je veux dire, depuis peut-être 2005-2006, le WAP, on entend plus ou moins parler. Pourtant, il y a beaucoup de choses là, qui se signent à ce niveau-là, entre autres avec le PSP qui est assez récent.
Ouais, c'est ça.
On se souviendra tous d'une certaine... une certaine rencontre à Montebello, là, où ce qu'il y avait eu, entre autres, là, je me souviens, là, même, il y avait un supposé manifestant violent qui avait été là, puis tout ça, puis il était habillé aux couleurs de Choix FM, entre autres. En tout cas, ça avait juste une petite polémique, là, au niveau de Québec-Montréal, finalement, c'était un policier déguisé, okay. Puis il y avait... En tout cas, tout ça pour... j'ai l'impression, tout ça pour dévier l'attention médiatique de
c'est ça, mais c'est parce que là, tu mélanges une couple de thèmes. En réalité, à Montebello, ce qui est arrivé, c'est trois agents de la Sûreté du Québec qui étaient déguisés en manifestants, puis qui avaient des roches dans leurs mains, puis ils se sont fait pogner par d'autres manifestants.
Bon, OK, oui.
Voilà. Puis la Sûreté du Québec a été obligée d'avouer qu'effectivement, c'était des agents de la Sûreté du Québec.
C'est ça que je voulais parler, je l'ai peut-être mal exprimé. Ouais.
On retourne dans mes trois derniers points.
Ouais.
Dans le but de compétitionner avec l'euro, on annonce qu'une monnaie commune est nécessaire parce que nos monnaies individuelles ne peuvent plus concurrencer, puis on appelle ça l'améro. Okay? L'améro est implanté de façon électronique, un peu partout. On va avoir des billets, mais ça va être surtout de façon électronique. L'économie va se relever.
Électronique, tu veux dire le e-cash, la fameuse monnaie.
De façon électronique.
Qui parle de
dans le sens que ça va être, on va forcer un changement économique, fait que, tu sais, toutes les publicités que t'as là pour transférer, commencer à utiliser Interact là, puis tes cartes là depuis plusieurs années là, ça t'amène tranquillement vers ça là. Ok.
C'est vrai. Puis c'est vrai que de moins en moins, en tout cas, je parle pour moi, je suis pas tenté à traîner beaucoup d'argent liquide sur moi. Là, c'est vrai que c'est souvent la carte. Puis.
Ok. Fait que donc le miro est implanté de façon électronique, l'économie se relève, puis le peuple recommence à avoir de la nourriture sur leur tablette, puis là la population est contente. Puis effectivement, à cause de cette crise-là, qui n'existera plus parce qu'on va avoir un système de monnaie qui n'existerait pas si on avait un système de monnaie basé sur l'or, ben la crise va être disparue, puis elle va être rendue possible juste à cause de nos banques. Cette crise-là va être rendue possible à cause de ça. Fait que là, comme je te disais après ça, j'écrivais, si tout ceci te paraissait réaliste ou que ça te paraisse invraisemblable, dis-toi ceci. Le 13 mars dernier, le Congrès américain a tenu une réunion secrète pour la première fois depuis 1982, dans laquelle tout ce que je viens de te lire a été rendu public, a été raconté au congressman.
OK, mais comment ça que ça a leaké?
Il y a des congressmen qui ont dit qu'il n'y a pas question même que ça reste secret cette affaire-là, puis ils ont commencé à en parler partout. Ça a été annoncé dans différents journaux à travers le monde, dans les heures qui ont suivi la rencontre. Puis c'était plusieurs journaux différents qui ont tous fait la même histoire en même temps, là. C'est pas un qui a pris l'histoire de l'autre, là. Fait que... Ensuite, c'est ça. Puis là, dans la rencontre, le 13 mars, ils ont annoncé que l'économie américaine pouvait s'effondrer aussitôt qu'en octobre 2008.
C'est drôle, c'est ça qui est arrivé.
C'est drôle, c'est ça qu'on vit là. Fait ouais. que c'est ça. Ça, c'est un scénario que j'avais annoncé, que je t'ai donné plusieurs exemples dans tout ça.
Mais c'est ça qui m'a fait freaker. T'as annoncé ça pour octobre 2008, puis en plein milieu d'octobre, bang, c'est ça qui se passe.
Fait que c'est ça. Ok, voilà.
Inquiétant.
Je pense pas qu'il va y avoir de... Je m'attends pas à ce qu'il y ait une guerre en Corée ou en Iran. En Iran, peut-être plus qu'en Corée, mais... je pense pas que ça va s'en plus loin. Parce que de toute façon, les Américains ont juste pas la force nécessaire pour supporter un autre combat. À moins que... c'est ça le plan de pourquoi ils veulent enlever leurs troupes de l'Irak d'ici 2009. D'ici 2011.
OK.
Parce que, Bush a décidé qu'il voulait annoncer des troupes, retirer des troupes. Parce qu'il n'y a pas le choix, il plie à la...
Oui, même le Canada aussi, là, il rapatrie ses troupes, puis je pense que la totalité va être ramenée justement pour 2011.
Ouais. Fait que...
C'est ce qu'il avait annoncé des médias, en tout cas.
C'est ce qu'il a été dit, effectivement. Puis les États-Unis veulent se retirer de l'Irak. On n'entend plus parler de la Corée, du tout.
Ouais, ça c'est louche, hein. Il y a comme un silence pesant. Qu'est-ce qui se passe? On n'entend plus parler.
Pour moi, ils savent que... Regarde, la Corée du Nord... C'est un danger spectaculaire, cette affaire-là, OK?
Mais oui, ils ont le nom qu'en plus...
Si les Américains décidaient de se battre contre la Corée du Nord, OK? La Corée, là, puis...
On parle d'une guerre nucléaire. Ouais,
la Corée, là, ils sont capables de lever du jour au lendemain une armée de 80 millions de soldats, OK? Ces gens-là vont se battre de façon fanatique. Oublie ça, là. Les Américains ne pourront jamais rentrer là. C'est beau d'envoyer des nukes. C'est beau, mais c'est parce que tu peux pas faire un conflit nucléaire.
Mon point, c'est que la Corée a des nukes aussi. Ouais, et à partir de ce moment-là, on est une cible.
Mais pourquoi est-ce que nous, on serait une cible? Si on les laisse tranquilles.
Le Canada, c'est pas un allié des Américains.
Dans mon opinion personnelle, Israël est beaucoup plus volatile que la Corée du Nord. Puis Israël, c'est la cinquième puissance nucléaire au monde. Ils te diront pas parce qu'ils l'ont jamais avoué, mais tout le monde le sait, c'est comme un secret de polichinelle.
Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai qu'ils sont un petit peu surveillés là par plusieurs pays.
L'Israël, ouais, mais c'est parce qu'ils sont aussi actifs de façon subtile et indirecte, même contre leurs alliés. Israël est souvent pointé comme étant le pays le plus actif au niveau de l'espionnage sur les pays alliés, encore plus que la Chine. Puis eux autres, ils font des astuces de mauvais coups. Dans les trois semaines après les attentats du 11 septembre, ou un mois après, il y a des agents israéliens qui se sont fait capturer dans le Parlement mexicain avec du C4, des explosifs, puis ils voulaient faire blâmer ça sur des terroristes musulmans. Okay? Mmh. Ça a été rendu public, ça, là, cette information-là. Ça s'est juste pas rendu au Canada, puis aux États-Unis, ils veulent pas en parler. Mais ça a été public, rendu dans le monde, partout dans le monde. Ben oui, okay.
OK. Ben, de toute façon, l'Israël, c'est pas un État américain.
Ben, à mon avis, les États-Unis sont un État juif, mais bon.
Ah, bon. OK. Question de point de vue, faut croire. Puis sinon, peut-être quelques petits conseils en terminant, là, au niveau de l'économie qui est en déclin présentement. Là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, d'abord, il faut s'informer.
Ben, c'est bon d'être au courant, mais il faut pas paniquer.
Fait que faut écouter le podcast.
Ouais, mais lisez, vous pouvez quand même en profiter pour lire les nouvelles qui viennent de l'extérieur de l'Amérique du Nord, là.
Ouais, ça c'est bon aussi. Diversifier ses sources médiatiques. Pas juste écouter la TVA puis se faire répéter 14 à 15 fois dans un bulletin. C'est vrai!
La première chose à faire, c'est pas paniquer. OK? Il y a pas de raison de paniquer pour l'instant, là. Puis deuxième, moi je te dirais, écoute, moi, personnellement, avant que la marchandise dans les épiceries augmente, moi, j'ai décidé de me faire une plus grosse épicerie de stock que je sais que je perdrai pas. OK? J'ai aussi été, j'ai diversifié, ben, j'ai proposé à mes amis, à des amis de diversifier le, excuse-moi, diversifier leurs acquis, leurs actifs, puis de pas juste avoir du, de, des investissements en bourse ou des affaires de même, mais d'acheter de l'or, du silver, des choses comme ça. Puis tu peux en acheter, là, librement, là, c'est pas un problème. À Montréal.
Pour en acheter, faut aller à la banque, c'est quoi?
À Montréal, tu vas au 620 de la rue Cathcart. Ça se trouve à être en face du Labbé, de l'autre bord du Square Phillips, dans le centre-ville de Montréal. Tu vas au 9e étage, tu rentres chez Kitco, puis tu prends un billet pour acheter, puis tu vas dans une petite salle privée, ils vont te vendre ce que tu désires. Ils te posent même pas de questions, tu mets le cash dans le trou, ils te donnent dans le trou, ils te donnent de l'or, du silver, ce que tu veux. OK? Et puis,
puis tu repars avec.
Fait que tu peux t'asseoir là-dessus, mettre ça dans un coffre, hein, oui. Peu importe, tu fais ce que tu veux avec, là, c'est tout à fait.
Mets ça dans un bas de laine, puis l'accrocher.
Ouais, fais juste espérer que ça passe pas en feu. À part de ça, quoi d'autre que tu peux faire? Parce que si nous autres, si on veut être capable de s'en tirer, il faut qu'on fasse rouler notre économie. Si t'as peur de ce qui se passe, la raison pour laquelle on rentre en récession, c'est parce que le monde, on perd de l'économie, fait qu'il dépense moins. Fait que c'est pas comme ça qu'on va s'en tirer. Si tu veux bien t'en tirer, faut que l'économie roule. Fait qu'il faut pas.
Fait que faut aller acheter.
Sortez, allez au cinéma, profitez-en, diversifiez vos affaires là, amusez-vous, il y a pas de trouble. Moi personnellement, je panique pas. Par contre, j'aime mieux prévenir que guérir. C'est que c'est ma philosophie.
Fait qu'il faut y aller à FNAF, là. Faut rester prudent, se préparer à quelque chose de pire, mais quand même continuer d'exister, d'en profiter, puis d'agir normalement.
Faites des enfants si vous en voulez, pas de trucs.
Excellent. Bon, mais sur ce petit à FNAF, je te dis merci, Tess Demi, puis à une prochaine.
Salut.
Ciao, bye.
Player left. Link disengaged.
On est de retour de cet entretien avec Test Domi du podcast With Cheese, accessible via le podcast.net, mais aussi sur, bien sûr, sur tacticalfm.com. On retourne en musique et le copieur se poursuit après cette pause avec les gaming news, l'actualité du jeu vidéo.
Link engaged.
Crack Sparrow Toys. Scarlet Tears, beneath the crescent moon.
We'll be right back. www.choclive.com.
Disponible 24 heures sur 24 partout dans le monde.
Écoute présentement KPR.
Crest Paradise Radio.
La radio par un direct du Kraken.
Soul CP, Slow Fuzz.
Numérique.
Gaming News.
Entertainment.
Yeah.
Amateurs de divertissement numérique, bienvenue dans les Gaming News. Avant de commencer, ben moi j'ai quelques jeux qui sont sortis en magasin que j'avais notés pour vous. Tant qu'à moi qui sont des incontournables. Alors donc, voici ma liste. BioShock qui est maintenant disponible sur PS3. Également Little Big Planet qui est sorti et qui est disponible sur PS3. On a aussi Gears of War 2 qui est sorti sur la Xbox 360. Également Fable 2, toujours sur 360. Il y a Fallout 3 qui est sorti simultanément sur PC, PlayStation 3 et Xbox 360. Il y a aussi Endwar qui est sorti sur PC, PS3, 360. Également sur les portables PSP et DS. Sinon, le dernier titre et non le moindre, Red Alert 3, qui est sorti simultanément sur PC et sur 360. Par contre, pour la PS3, ben, il semble-t-il qu'il va falloir attendre plus tard, mais la version PS3, ben, EA nous promet une meilleure version qui tirerait avantage là, du 1080p ainsi que du Blu-ray. Donc, c'est ce qui résume un peu les nouveautés et les incontournables. Alors, commençons les Gaming News sans plus tarder. Sortie imminente d'une nouvelle expansion pour WoW. Blizzard Entertainment a annoncé il y a quelques semaines dans un communiqué que la deuxième extension du jeu de rôle en ligne World of Warcraft serait disponible le 13 novembre prochain en Amérique du Nord et en Europe. Wrath of the Lich King sera donc vendu au prix de 39,99 $ canadiens. En plus du Canada, l'expansion devrait aussi être commercialisée au Mexique, en Argentine, au Chili et en Russie, puis dans les jours suivants en Australie et en Asie. Toujours à propos de WoW, on apprend qu'un nouveau record est établi. En effet, le 29 octobre dernier, Blizzard Entertainment annonçait que les inscriptions pour son populaire jeu de rôle en ligne venaient de franchir le cap des 11 millions d'abonnés. Comparativement, et pour se donner une meilleure idée, ben 11 millions de gamers représenteraient environ l'équivalent de la population de New York et de Chicago combinés, soit l'équivalent de la population de l'État de l'Ohio, ou encore un peu plus que celle de toute la Grèce. À moins d'un flop, ce qui serait étonnant, ben la prochaine expansion de World of Warcraft devrait donc faire augmenter encore le nombre d'abonnés. Un jeu vidéo repoussé par peur d'offenser les musulmans. La sortie d'un jeu vidéo très attendu de Sony pour la PlayStation 3 a été repoussée d'une semaine afin de retirer une chanson qui aurait pu être jugée offensante par des musulmans. La bande sonore de Little Big Planet contenait une chanson citant à deux reprises des expressions tirées du Coran. Nous avons appris qu'il y a une chanson de la bande sonore que certaines personnes pourraient juger offensante et qui s'est glissée à travers les mailles de notre processus de vérification, indiqué sur son site internet Media Molecule, la firme britannique qui a conçu le jeu pour Sony. Afin de ne pas offusquer les musulmans, Sony a préféré rappeler les exemplaires du jeu vidéo qu'elle venait récemment d'envoyer aux détaillants. La sortie de Little Big Planet en Amérique du Nord a donc été déplacée d'une semaine. Une guitare signée Logitech. Le fabricant suisse Logitech, qui est connu principalement pour ses claviers et ses souris, annonçait récemment vouloir séduire les joueurs, cette fois-ci en leur proposant une guitare de luxe pour le jeu Guitar Hero. La Wireless Guitar Controller Premier Edition de Logitech se veut la plus réaliste possible, notamment grâce à un corps solide, un manche en bois et des frettes et des clés en métal. La guitare est compatible avec tous les jeux Guitar Hero, autant sur PlayStation 2 que sur PlayStation 3, et vient avec son propre sac de transport. La connexion 2.4 GHz peut se rendre jusqu'à 10 mètres et la guitare fonctionne une centaine d'heures avec deux batteries AA. Logitech, qui n'a toujours pas dévoilé pour le moment si elle produirait des guitares pour les autres plateformes ou si elle comptait produire d'autres instruments pour les jeux concurrents comme Rock Band. La PS3 plus rapide qu'Internet Explorer. En effet, naviguer sur Internet sur la console PlayStation 3 est désormais plus rapide que sur un ordinateur muni d'Explorer 7, a fait savoir Sony, alors que la compagnie japonaise a dévoilé la version 2.5 du logiciel de la PS3. En plus d'une vitesse accrue, particulièrement au niveau du traitement du JavaScript, où le navigateur de Sony a vu sa vitesse améliorer de 280%, la console de jeu PlayStation 3 supporte maintenant la version 9 de Flash Player. Cette dernière intégration aurait été particulièrement difficile à réaliser selon Sony, qui a dû investir un an de travail. Les modifications que Sony a dû apporter à la façon dont son navigateur utilise les ressources de la PS3 pour que celui-ci puisse supporter Flash 9 feraient également en sorte que la vitesse générale de ce dernier serait désormais grandement accrue. Selon Sony, le navigateur web de la PS3 serait donc maintenant plus rapide qu'Explorer 7 de Microsoft, mais plus lent que Chrome de Google. Sony a également dévoilé la version 5 du micro-logiciel de la console PlayStation portable. Cette dernière n'offre toutefois pas Flash 9 puisque les ressources de cette console seraient trop limitées. Le Japon accueille la DSI. Plusieurs boutiques japonaises étaient déjà en rupture de stock quelques heures après l'ouverture de leurs portes la fin de semaine dernière. La nouvelle version de la console portable DS de Nintendo, la DSi, a reçu un accueil enthousiaste samedi au Japon. Plusieurs détaillants de produits électroniques à Tokyo ont vu leur stock de DSi disparaître avant midi, rapporte l'agence France Presse. Nintendo a donc livré 200 000 appareils DSi pour les ventes du week-end et prévoit en livrer 100 000 autres pour la semaine en cours. Nintendo a par ailleurs annoncé vendredi que la DSi serait disponible dans le reste du monde au printemps 2009. D'autres couleurs, autres que le blanc et le noir, seront également proposées pour la troisième génération de cette portable. La DSi intègre un appareil photo doté de deux capteurs, un premier de 3 mégapixels installé sur le boîtier de l'appareil et un autre de 0,3 mégapixels installé à l'intérieur de la console portable. La DSi, qui offre un écran plus grand que la DS Lite, avec une diagonale de 92 mm plutôt que de 87,5, peut également être utilisée comme baladeur audio numérique. L'appareil est offert au Japon au coût de 18 900 yens, soit environ 226 $ canadiens. On signale aussi que la DS rend obsolète les cartes de type R4. Par contre, un nouveau hack semble avoir été trouvé, puisque présentement, il y a une vidéo sur YouTube qui montre une DSi qui affiche Yazoo Software, Hello World. Donc, fort probablement que dans les mois qui suivent, on devrait voir apparaître un nouveau type de cartouche du style R4, mais pour la DSi. Le Festival Arcadia, une réussite. C'est la fin de semaine dernière que s'est tenu à Montréal le Festival Arcadia, un des plus importants événements grand public réservés au domaine du jeu vidéo au Canada. Cette année, Arcadia a changé d'endroit. Au lieu de se tenir comme à l'habitude au stade Uniprix, le populaire événement s'est plutôt déroulé au Forum Pepsi. Par conséquent, l'aménagement des lieux était complètement différent de ce qui se faisait dans les autres années. En effet, les activités se sont déroulées sur 4 étages dans un environnement aménagé comme un horse party. Fidèle à son habitude, l'événement proposait une ambiance multimédia. Les Arcadiens ont pu essayer plusieurs jeux en primeur, dont le très attendu Tomb Raider Underworld ainsi que Fear 2. Au premier étage, les personnes qui songent travailler dans le domaine vidéoludique ont pu visiter la zone académique Banque Nationale. Plusieurs écoles et autres centres de formation donnaient de l'information aux curieux. La scène Sennheiser, quant à elle, a proposé une foule de spectacles, dont les présentations des Fragdons, équipe de gamers de Ubisoft. Pour l'occasion, la patinoire accueillait les compétitions de NHL 2009 de la Coupe Cyber Canada. Le deuxième étage, appelé la promenade, permettait aux visiteurs d'avoir une vue d'ensemble du festival. Une salle de jeu était également accessible au troisième étage, où les visiteurs pouvaient notamment jouer à des arcades. Pour les nostalgiques, Arcadia proposait une zone flashback où il était possible de gamer sur Commodore, Atari et Nintendo Entertainment System. Le Penthouse Amp Energy du quatrième étage regrouperait quant à lui des stands de développeurs tels que PlayStation, Nintendo, Xbox, Disney, Eidos, Ubisoft et Warner. Exception faite de certains visiteurs qui se seraient plaints des difficultés de stationnement au centre-ville de Montréal, l'édition 2008 du festival semble donc avoir été un succès. Des copies sur la Wii sans mode chip. Lifehacker nous apprenait le 8 novembre dernier que la console Wii de Nintendo pouvait maintenant lire des jeux copiés, et ce, sans mode chip. À l'aide d'une carte SD du jeu Zelda Twilight Princess, du Wii Brew SD Installer et d'un PC, il serait donc possible de créer un buffer overflow permettant de rouler à la fois des applications Homebrew ainsi que des copies de jeux. Rendez-vous donc au lifehacker.com pour un how-to complet sur la démarche à suivre. Gageons toutefois que cette faille sera rapidement patchée par Nintendo lors de la prochaine mise à jour de sa console. Ghostbusters de retour en gaming. Il y a 2 jours, Eurogamer confirmait la rumeur qui circulait déjà depuis quelques temps sur Internet. Un jeu coïncident avec le retour sur grand écran des Ghostbusters est en préparation. 25 ans après la sortie du premier film, Ghostbusters The Game, incluant les 4 acteurs originaux du film, est basé sur le script de Dan Aykroyd et Harold Ramis, verra le jour sous peu sur PC, PS2, PS3, Wii, Xbox 360 et DS. Espérons toutefois que cette nouvelle version sera meilleure que celle parue à l'époque sur Atari 2600. Des CDK problématiques chez EA. La compagnie Electronic Arts rit jaune depuis la sortie de Red Alert 3. En effet, suite à une erreur d'impression pour certains de ces manuels, les joueurs qui ont tenté d'installer le jeu se sont donc confrontés à un problème de CDK. Certains manuels du jeu où se trouve la précieuse clé n'affichaient donc que 19 des 20 caractères du code. Et la réponse de EA aux consommateurs frustrés? Devinez éliminer le dernier caractère. Et oui, sérieusement, certains joueurs ont dû, pour compléter leur installation, essayer les lettres de A à Z, ainsi que les chiffres de 0 à 9, soit une chance sur 36. Heureusement, l'erreur d'impression a vite été corrigée et n'affectait qu'un petit nombre de copies. Little Big Planet soulève un questionnement sur le copyright. Dans sa dernière parution, le magazine Joystick soulevait le questionnement par rapport aux droits de propriété intellectuelle face au contenu créé par les utilisateurs dans un jeu ou pour un jeu. Puisque certaines créations des joueurs de Little Big Planet s'avèrent être des répliques de jeux existants, Joystick soulevait donc la question suivante. Jusqu'où Sony pourrait être dans le trouble par rapport à des poursuites liées à ses copies, de plus en plus présentes dans la communauté de joueurs? Déjà, les termes de service de Sony semblent être plus restrictifs, contrairement à Second Life, par exemple. Verra-t-on donc prochainement un takedown massif des mini-jeux créés par les utilisateurs? Affaire à suivre. Et dernière gaming news, et non la moindre, EA en cours. Le 8 novembre dernier, Game Politics nous apprenait que EA se voit affligé de deux nouvelles poursuites concernant la présence de DRM, de Digital Rights Management, dans ses jeux. La première poursuite vient d'un joueur de la Pennsylvanie qui, après avoir installé la démo de Spore, a jugé la présence de DRM offensante. Selon lui, la présence de technologies DRM telles que Securum, en plus de ne pas être mentionnée dans le End User License Agreement, constituerait une violation majeure des droits des propriétaires de PC de contrôler ce qui est installé ou non sur leur ordinateur, particulièrement sur une version gratuite et distribuée librement comme une démo. La seconde poursuite, quant à elle, provient d'une femme du Missouri qui, après avoir installé la version complète du jeu The Sims, a vu tous les CD de backup de ses travaux, toutes ses clés USB ainsi que son iPod cesser de fonctionner sur son système. Après un format et une réinstallation complète de son système, la femme poursuit donc EA pour pratique frauduleuse ainsi que pour conduite immorale, contraire à l'éthique et oppressante. Contacté par plusieurs journalistes, EA demeure silencieux et ne veut pas formuler aucun commentaire. Alors voilà, c'est ce qui résume un peu l'actualité dans le divertissement numérique. C'est en même temps ce qui conclut le copieur numéro 8. J'espère que vous avez apprécié. En terminant, si vous avez des commentaires, des plaintes, des suggestions, faites-le via l'adresse copieurfm@hotmail.com. Je précise, c'est aussi mon MSN, alors n'hésitez pas à m'ajouter. Sur ce, c'est ce qui conclut l'épisode 8. Alors moi, je vous dis à la prochaine pour un épisode 9. C'était Kraken au rapport pour TacticalFM.com.
Player left. Link deactivated.
Limp Bizkit. Nuki.
Like a charm,
hey,
like a charm,
hey,
like a charm,
hey,
like a charm.
Hey.
I did it.
For last-minute changes in notes, please examine the README file.
Walking was not exactly my obsession. It seemed more like garbage.
Your connection to the server has been terminated.